Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actualité du jeu vidéo. On parle de l'industrie, des consoles, des PC, des mobiles, tout ce qu'il faut retenir et on analyse un petit peu les informations importantes. On vous parle même des jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Aujourd'hui, on va vous parler du Nintendo Direct de la semaine dernière où il y a eu des petites choses annoncées et puis surtout l'arrivée du Switch Online Service et on va vous dire ce qu'on en pense. On va aussi vous parler de un petit retour sur Dragon Quest et Spider-Man. L'homme araignée, même un petit peu de Destiny 2, les jeux de septembre en gros. Hein, on va également dire quelques mots sur Black Ops 4 Blackout, le mode Battle Royale tant attendu. Vous pensez que je suis ironique, mais peut-être pas en fait. Et plein d'autres choses, la console PlayStation classique, le PlayStation Now qui évolue, des petits jeux du TGS et plein d'autres petits news. Enfin, on a énormément de choses à couvrir, donc je ne vais pas perdre plus de temps dans cette introduction. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de recevoir à nouveau, après ce qui m'a semblé être des années, des siècles, des décennies, des éons, non, comment on dit, des ères entières, J.K. Loret, comment ça va?
Bonjour, je m'appelle Patrick, j'en fais trop, mais...
non, mais c'est écoute, vrai que ça fait longtemps, mais,
oui,
ça fait longtemps,
ouais,
J.K.
Ce
que tu es en train de me dire que...
Ouais, carrément, mais carrément.
T'es en train de me dire que mes sentiments ne trouvent pas leur écho
non,
chez toi, c'est ça?
Non, c'est pas vrai. Non, c'est faux. Tu m'as énormément manqué. Après, tu vois, j'ai réussi avec les vacances notamment que j'ai eu à essayer de t'oublier. Tu vois, ça a un petit peu marché, mais je suis quand même content de revenir.
La présence de ta femme et de ton fils t'ont un petit peu aidé quand même.
Ça, voilà, la présence de mon fils, le fait que je te borde la mer, tu vois, il y avait plein de choses comme ça qui m'ont dit bon, ça va finalement, le rendez-vous jeu, c'est en septembre, donc c'est cool. Mais plus sérieusement, c'est vrai que le mois d'août, il y a eu la Gamescom. Moi, comme j'étais sur place, on n'a pas pu enregistrer là-bas. Enfin, on n'a pas pu faire de numéro spécial Gamescom. Donc du coup, le mois de septembre et de suite de retour, c'est la rentrée. Et je suis bien reparti pour être là une fois par mois, a priori, si tu veux toujours de moi, bien sûr.
Mais bien sûr, je veux toujours plus de toi, J.K., toujours plus.
Bon, ça va.
Et comme tu le dis, c'est la rentrée. Je vais emprunter le bon mot d'une autre émission que j'ai fait. Je crois que c'était Cédric Ingrand qui l'a dit dans le Rendez-vous Tech. On disait, c'est la rentrée. Il y a plein de sorties et c'est vraiment le cas. Donc on va vous parler de tout ça, mais avant de reparler des sorties du mois de septembre un petit peu plus en détail peut-être, puisque tu as eu l'occasion de jouer à différents jeux, tu vas donner tes avis sur des jeux dont j'ai peut-être déjà parlé. On va parler du Nintendo Direct de la semaine dernière avec pas énormément de grosses annonces, il y a quand même quelques trucs bien sûr, mais des choses intéressantes et puis des choses dans lesquelles on peut aller farfouiller. Alors, au niveau des jeux, on va faire d'abord les jeux et puis le Switch Online. Au niveau des jeux, il y a Animal Crossing, c'était la grosse annonce pour 2019. Bon, Animal Crossing, c'est pas mon truc, mais il y a plein de gens qui sont super excités. On a une date pour... l'annonce aussi de Super Mario Bros. U Deluxe, qui est un nouveau Super Mario qui arrive sur Switch. Et comme je le dis souvent...
Nouveau, pas vraiment, mais...
Non, t'as raison. Une nouvelle adaptation d'un vieux Super Mario sur Switch.
Un portage.
Et comme je le dis souvent, ça veut dire que Super Mario 3D World se rapproche, le remake de Super Mario 3D World, et j'ai très hâte qu'il arrive pour le refaire encore une fois. Je l'avais adoré sur Wii U. Yoshi's Crafted World sortira au printemps 2019. Il y a Luigi's Mansion 3 qui arrive sur Switch à un moment. Et puis des remakes de plein de Final Fantasy, dont Final Fantasy 7. Et enfin, Diablo 3 qui arrive le 2 novembre. Ça, c'est plus pour la News Blizzard. Le 2 novembre, c'est le premier jour de la BlizzCon. Ce qui veut dire que, a priori, c'est pas un hasard qu'ils le sortent à ce moment. Je pense qu'il y aura une annonce ça confirme encore l'annonce d'un autre projet Diablo, un autre jeu Diablo à la BlizzCon d'ici, maintenant un petit peu plus d'un mois. Donc, sur tous ces jeux, des trucs qui te parlent?
Écoute, c'est vrai que bon, Animal Crossing, je suis comme toi en fait. Moi, enfin, j'ai un rapport particulier à Animal Crossing. C'est quasiment à chaque nouvel épisode, j'essaye de m'y mettre en me disant ouais, cette fois-ci ça va me plaire, cette fois-ci je vais accrocher et tout. Et puis j'y joue 3, 4, 5 heures et puis au bout d'un moment, je me dis mais
on a marre de planter tes poireaux et de s'assurer que Clémentine est contente de te voir et de recevoir des lettres, tout ça, ouais.
D'échanger des clochettes et tout, bon, voilà, je comprends que l'engouement de cette licence, c'est vraiment, elle est culte pour plein de gens, mais voilà, et puis qu'il arrive sur Twitch, bon, c'est juste une non-surprise, hein, mais c'est, voilà, c'est une bonne nouvelle. Après, je me plaindrai, à partir du moment où les jeux sont bons, je me plaindrai rarement des portages qui issus de la Wii U, parce que souvent, c'est des jeux, auxquels les gens n'ont pas beaucoup joué, voire pas du tout, puisque la Wii U a pas marché. Donc le fait d'avoir New Super Mario Bros. U, pour moi c'est cool parce que j'y ai pas joué à l'époque. Et 3D World, c'est vrai que tu l'as cité, mais pareil, je suis passé à côté, donc je serais bien content. Voilà, beaucoup de portages.
Pour clarifier, 3D World n'a pas été annoncé du tout. Hein. C'est juste suppute qu'il arrivera à un moment.
Ça semble logique effectivement. Ouais, c'est effectivement beaucoup de portages. Ça m'a fait rire. Je sais pas si t'avais entre guillemets. Il y a beaucoup de gens qui râlent parce que FF8, FF9, FF10 vont sortir sur Switch et FF7, FF9 et FF10 sortent sur Switch et le 8 est passé à la trappe. On sait pas trop pourquoi. J'ai l'impression que c'est un épisode qui est pas.
Je pense qu'on sait pourquoi en fait.
Ouais, mais je connais plein de gens qui adorent le 8. Moi, enfin, moi j'ai pas joué, je peux pas vraiment juger, mais je connais plein de gens qui adorent le 8. Et c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est un peu un petit canard de la série. Et finalement, moi je sais très bien que comme un gros nerd, je vais replonger dans Diablo 3 sur Switch parce que.
Ah oui, tu vas y rejouer.
Ouais, je pense. Enfin, je sais pas, je suis quand même ultra. Déjà, un bon hack and slash sur Switch, pour le moment, il n'y en a pas. Parce qu'il y a eu Titan Quest, mais qu'apparemment le portage est de mauvaise qualité. J'y ai joué à la Gamescom un petit peu à Diablo 3 sur Switch, parce qu'il était en démo. Et écoute, j'étais plutôt rassuré, parce qu'ils ont fait le choix, je ne sais pas si tu en avais déjà parlé, mais ils ont fait le choix de downgrader l'aspect graphique. Le jeu est pas très joli, enfin
s'assurer d'avoir une bonne fluidité.
Voilà, par contre on est normalement au taquet. Alors je crois qu'on est à 30 fps ou à 60, non, on doit être à 30 plutôt, mais en constant, c'est-à-dire qu'il y a aucune baisse de framerate. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent. Moi, du peu que j'en ai vu, c'est fait que dans les moments où il y a beaucoup d'ennemis et d'effets à l'écran, ça tient bien, quoi. Donc j'ai juste un peu peur de la prise en main. Pour le coup, j'ai jamais joué à Diablo au pad, hein.
Ça marche très bien sur PlayStation et sur Xbox. Ils ont vraiment réussi à très bien adapter les contrôles, donc à ce niveau-là, je suis pas inquiet du tout.
Ouais, moi non plus, mais je suis quand même j'ai hâte de voir ça. Donc oui, non. C'est quasiment sûr que je vais replonger dans Diablo 3. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué, en plus, ça va me faire plaisir d'y rejouer.
Moi, j'y ai trop joué déjà.
Je pense que c'est bon, c'est fini.
Ouais, moi, c'est terminé.
Ouais, et toujours pas de nouvelles de Metroid Prime 4. J'ai l'impression que ça va devenir l'Arlésienne de Nintendo. Je pense sincèrement qu'ils l'ont annoncé trop tôt et qu'ils ont tellement rien à montrer que pour le moment ils peuvent pas se permettre de communiquer dessus, quoi. On verra.
C'est possible. C'est vrai que c'est pas qu'on l'attendait. On pensait qu'il allait être annoncé, je pense que d'ici, à mon avis, au prochain E3, on en entendra parler. Donc le 3 s'approche. Ouais. Le 3 s'approche.
Arrête, ça fait trop bizarre de dire ça, mais oui, il sera chaque jour, il se rapproche plus que le jour d'avant.
Exactement.
Certes.
Ça factuellement, semble logique, effectivement. Voilà. L'autre morceau, c'était la partie sur le Switch Online qu'ils ont détaillé avec force détail. Donc, on sait bien le prix du service. On est à une vingtaine d'euros par an. Il est déjà disponible depuis une petite semaine. Il fonctionne exactement comme prévu. Les choses à noter, c'est le fait que d'abord le truc qui a fait beaucoup de bruit, c'est que certains jeux n'ont pas la possibilité d'avoir des sauvegardes dans le cloud, d'uploader leurs sauvegardes dans le cloud, avec une explication de Nintendo qui est quand même hyper étrange. Ils disent que c'est pour éviter la triche. C'est-à-dire l'idée de que quelqu'un pourrait faire un truc qu'il ne voulait pas dans sa sauvegarde et l'effacer, la retélécharger du cloud. Ce qui est quand même étrange parce que ça fonctionne très très bien avec les autres consoles. Peut-être qu'ils ont besoin de l'avoir en local parce que la Switch est portable et donc elle peut ne pas être connectée à Internet. Mais enfin, on peut déconnecter sa console PlayStation d'Internet et jouer quand même à différents jeux. Donc, on comprend pas très très bien pourquoi ils ont fait ça. Mais certains jeux, alors ils parlent de Splatoon par exemple, ou Dark Souls, on ne pourra pas uploader les sauvegardes pour éviter la triche. Ils parlaient aussi de Dead Cells, mais finalement Dead Cells on peut. Donc enfin, il y a un petit peu quelque chose d'un petit peu étrange là-dedans. L'autre aspect, c'est que les sauvegardes ne seront pas disponibles, seront possiblement effacées très vite après qu'on annule son abonnement. Sur les autres consoles, elles sont conservées, je crois, pendant 6 mois. Donc, on peut annuler l'abonnement ou se réabonner ensuite. On a 6 mois de période de grâce, on va dire, de répit. Chez Nintendo, c'est pas clair. Ils disent, bah, peut-être qu'elles seront plus là. On imagine qu'il y a quelques jours où elles sont encore là, quand même, pour éviter que l'instant où vous désabonnez par oubli, tout soit effacé. Mais ça, c'est aussi une petite, comment dire, un petit inconvénient par rapport aux autres services. Un autre truc, c'est que on peut partager des jeux avec quelqu'un d'autre sur Switch. C'est-à-dire que on peut avoir un jeu qui est acheté avec notre compte Nintendo. On le télécharge sur une console. On le télécharge sur notre console secondaire qu'on définit comme console secondaire. Et tant qu'on est connecté à Internet, on peut y jouer sur la console secondaire. Là encore, on se dit « Ouais, cool, je vais pouvoir jouer à mon jeu sur deux consoles. » Bien sûr, on ne peut pas jouer en même temps sur les deux consoles, ça c'est normal. Mais la console secondaire doit être connectée à Internet en permanence, contrairement à la console principale. Et c'est un truc qui existe évidemment sur les autres consoles sans avoir besoin d'être connecté en permanence. Si vous téléchargez un jeu PlayStation, par exemple, sur votre deuxième console PlayStation, et que ensuite vous vous déconnectez d'Internet, bah, vous devez vous connecter, je crois, tous les mois. Mais à part ça, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de rester connecté en permanence. Donc, au final, le service... Ah oui, il y a aussi les jeux NES que j'oublie presque. Il y a une vingtaine de jeux NES qui, à mon sens, n'ont vraiment pas une grosse motivation pour s'abonner au service. Une vingtaine de jeux auxquels ils ont ajouté l'aspect jeu en ligne, et puis on peut jouer à deux. Ok, bon, si vous voulez jouer à Balloon Fight, très bien. Mais le jour où il y aura des jeux Super NES, ça sera différent. Mais au final, c'est quand même un service qui... on s'en fout, les gens, comme je le disais, vont payer parce que c'est beaucoup moins cher que les autres, c'est le tiers du prix des autres. Mais bon, il a quand même, à chaque fois qu'il y a un truc sympa, il y a une restriction par rapport aux autres services du genre. Mais c'est Nintendo, donc ça va, parce qu'on les aime bien.
Ouais, et en même temps, c'est Nintendo, donc ça ne nous surprend pas que ce soit un peu à la rue par rapport à ce que fait la concurrence. Enfin, via Nintendo, traditionnellement, c'est devenu presque une tradition, malheureusement. Ils ont toujours été super à la bourse sur les services en ligne. Que dire ? Ouais, alors, effectivement, moi j'ai eu l'occasion de... Je l'ai testé. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une semaine d'essai gratuit. Donc ça coûte 5 euros par mois, c'est ça, et 20 euros par an, donc c'est effectivement pas très cher. La première semaine est gratuite, on peut en plus se désabonner très facilement avant la fin de la période d'essai si on veut juste tester et voir comment ça fonctionne. Et effectivement, c'est encore bourré de petites aberrations, de trucs pas pratiques. Le catalogue de jeux rétro, alors il est bon, ça certes, ça se focus sur la NES, mais en dehors des Mario, enfin de deux Mario, un Zelda et deux trois jeux comme ça qui sont encore agréables à jouer aujourd'hui, on va dire. Il y a énormément de choses qui manquent. Il y a quasiment pas de jeux d'éditeur tiers. Enfin bon, voilà. Et effectivement, on attend plus les jeux NES. On est censé pouvoir jouer à certains de ces jeux en ligne avec des amis. Ça, c'est pareil, c'est une première, c'est rigolo, c'est des jeux rétro. Personnellement, j'ai testé avec un collègue, ça n'a pas marché. Je ne sais pas si c'était moi ou la connexion internet ou je ne sais quoi. Alors, c'était déjà en place avant, bien sûr, mais faut préciser aussi que le chat vocal est une aberration sur cette console, puisque ça implique de télécharger l'application Nintendo sur le téléphone et de se servir du téléphone, en fait, en kit main libre à côté de la console, pour pouvoir chatter avec des gens pendant une partie. Donc
sur ce point, il y a deux choses à dire. D'une part, c'est pas le cas dans Fortnite, dans lequel on peut chatter simplement en branchant un micro casque dans la console comme sur n'importe quelle autre machine. D'ailleurs, Fortnite qui est également disponible en multijoueur sans avoir besoin d'être abonné.
Exactement.
Ce qui, j'imagine, est un arrangement entre Epic et Nintendo. J'imagine qu'Epic leur paye un petit peu d'argent. Visiblement, Warframe, ça sera le cas aussi. Donc oui, il y a des choses qui sont disponibles de manière à ce que les jeux free-to-play, en tout cas, restent complètement free-to-play. Mais sur ce point-là, maintenant que j'ai un enfant, même s'il est beaucoup trop jeune pour jouer aux jeux Nintendo, tu sais que je pense aux choses de manière un petit peu différente. Je me dis, il joue aux jeux Nintendo et il n'a même pas la possibilité de voir quelque part le fait de pouvoir chatter. Et ben ça me, je me dis, la console Nintendo, c'est la console hyper safe pour les enfants. Il n'y a aucun risque. Bon, sauf s'ils téléchargent Fortnite, évidemment. Mais il n'y a aucun risque.
Parce qu'il fera aucun problème. Il aura 5 ans. Ouais.
Bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, pour la plupart des jeux Nintendo, c'est tellement rond, mignon. Et même l'aspect chat, bah, il n'y en a pas. Donc il n'y a aucun risque. Tu vois, tu le laisses tranquille avec sa console. Tu ne vas pas te dire, ah merde, il va tomber sur un excité qui va l'insulter ou qui va dire des trucs hyper perturbants. Et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et c'est un truc, on aurait pu me le dire quand j'avais pas un enfant, genre dire « Ah ouais, mais fais chier, machin ». Aujourd'hui, le simple fait d'avoir un enfant et de considérer ces choses-là, je me dis « Bah écoute, dans quelques années, je serai peut-être plus tranquille en le mettant sur la Switch que de le mettre sur la PlayStation, quoi ». Mais bon.
Je comprends bien, mais après, rien n'empêche d'aller prendre ton téléphone, bon, évidemment, et d'activer le chat. Mais
ah bah oui, c'est plus compliqué quand t'as 4 ou 5 ans.
Oui, quand t'as 4 ou 5 ans, non, mais c'est sûr.
En même temps, non, ce que t'aurais pu dire, c'est qu'ils auraient pu faire un contrôle qui doit être très simple à faire, de désactiver tout simplement, de faire disparaître le chat au niveau de
ou
la console.
Un mot de passe. Enfin, activer le chat, un mot de passe parental.
Ouais, mais bon, quand il est avec le mot de passe, il y a la tentation, tu vois. Il se dit, ah, mais il y a le chat, pourquoi moi j'ai pas droit d'avoir le chat avec les trucs, et là tu dois lui expliquer qu'il y a des prédateurs sexuels sur internet, tout ça, c'est, tu vois, c'est des conversations un petit peu inconfortables que t'aimerais bien attendre un peu avant d'avoir à les avoir quand ils ont 4 ans et qu'ils veulent juste jouer à Mario Kart, tu vois. Donc enfin bon, c'est un détail, mais
c'est sûr. Après, ça, c'est, si on peut partir en débat là-dessus, sur la façon dont on gère les jeux vidéo, mais c'est clair que, après, moi, je sais que mon fils, quand il sera à jouer aux jeux vidéo dans les premières années, c'est hors de question, entre guillemets, que je sois pas à côté de lui quand il joue, tu vois. Alors, enfin, tu vois, quand on jouera à Mario Kart, je serai à côté de lui.
Oui, bien sûr.
À côté de lui. Bon, voilà. Mais après, il y a, bien sûr, il y a ce qu'on dit, il y a la pratique, hein. Ça se trouve, il jouera à GTA quand il aura 8 ans, j'en sais rien.
Non, mais je veux dire, au début, t'es à côté de lui. Mais
oui,
au bout d'un moment, quand tu vois, il y a un âge intermédiaire où tu te dis, bah, je peux le laisser tranquille avec sa console, mais si tu sais qu'il y a du chat un petit peu discutable, t'as peut-être moins envie, quoi. Enfin bon, bref, c'est un détail, on n'a pas besoin de passer 2 heures là-dessus, mais à mon sens, c'est cette obsession presque disneyesque de la sécurité des enfants
qui
a poussé Nintendo à faire ce choix. Mais bon, voilà.
Ouais, bon, voilà. Donc voilà, non mais moi mes impressions, voilà, pour ce service-là, j'ai envie de dire c'est service minimum, pour à peu près 20 euros, mais en même temps, bon, pour 20 euros par an, si vraiment t'as envie de jouer en ligne, parce que le jeu en ligne marche bien, hein, y a pas trop de soucis, y a pas de lag, j'ai joué à Mario Kart et tout ça, bon, c'est comme avant, hein, ça fonctionne correctement. Bon voilà, il y a les sauvegardes en cloud et le catalogue Nintendo qui est rétro, qui j'espère va quand même s'étoffer un petit peu. Bon voilà, c'est pour 20 euros par an, c'est pas non plus scandaleux, mais c'est clair que ça pourrait être mieux fait sur pas mal de points, quoi.
Bah, disons que c'est le truc que, comme je le disais à son annonce, l'ensemble des joueurs va s'abonner quand Smash Bros va sortir, ou enfin le jeu auquel tu veux jouer à tel moment.
Bien sûr.
Et puis tu l'oublies et tu ne le désactives jamais, parce que tu dis ouais, bon, 20 dollars par an. Si, comme je le disais, que s'il y a disons un tiers des 20 millions d'utilisateurs qui s'abonnent, eh ben ça fait quand même un sacré paquet d'argent gratuit,
ouais,
entre guillemets,
carrément.
Qui revient à Nintendo. Donc ils n'ont aucun intérêt à ne pas le faire.
C'est sûr.
Donc voilà pour le Nintendo Direct de la semaine dernière. On va passer à, comme je le disais, c'est la rentrée, il y a plein de sorties. Donc on a malheureusement, ni toi ni moi, pas joué à Shadow of the Tomb Raider. Mais d'après l'ensemble des réactions, ben, c'est un Tomb Raider de la série des reboots qui a commencé il y a quelques années. C'est un bon titre de cette série, qui n'est qu'un titre de cette série. Donc c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Moi, je crains que ce titre soit un petit peu perdu au milieu de toutes les sorties, parce que Dieu sait qu'il y en a. Mais ouais, est-ce que t'en as entendu d'autres choses, toi ?
Bah non, j'ai entendu comme toi. Enfin, globalement, les gens sont au mieux, se disent ouais, ça fait le job, et au pire disent ils sont vraiment pas foulés, ça sent l'épisode de trop, parce qu'il y a vraiment une impression de jouer au même jeu qu'avant, avec un skin, enfin ça se passe au Pérou je crois cette fois-ci. En fait, tout le monde s'accordera à dire qu'il y a vraiment des beaux moments, techniquement c'est solide, mais que vraiment il y a vraiment une impression de Reddit qui est très très présent. Et ce qu'il faut préciser, c'est que c'est développé par pas par Crystal Dynamics, c'est développé par Eidos Montréal, donc qui ont fait avant les Deus Ex, notamment le reboot, enfin les deux derniers Deus Ex, Et ça sent un petit peu le travail de commande, un petit peu comme à l'époque, comme il y a eu Arkham Origins qui était sorti, qui était un peu un truc de transition entre Arkham Knight et Arkham City. Celui-là, t'as l'impression sur Shadow of the Tomb Raider que c'est un peu la même chose. Donc, bon, voilà, moi, c'est toujours une licence que j'aime bien. Clairement, ils ont fait un super taf avec le reboot à l'époque et tout. Mais j'espère que voilà, là, ils vont prendre quelques années pour revenir à quelque chose de plus innovant et de plus intéressant. Bon, après, encore une fois, je parle sans y avoir joué. Donc, voilà, mais de tout ce que j'en ai entendu et ce que j'ai vu, etc. J'jetterai un œil peut-être si j'ai le temps, mais vu tous les jeux qui sortent là,
C'est un peu son problème, je crois. C'est peut-être un jeu auquel on va repenser d'ici quelques mois. Et encore, c'est son problème. Il y a tellement de trucs qui sortent. Quand le premier est sorti, quand Tomb Raider, c'était quoi, 2013 2011 ou 2013, je ne sais plus, mais c'est peut-être 2013. Quand il est sorti, on n'était pas du tout dans ce paysage vidéoludique absolument fou dans lequel on est depuis 2-3 ans maintenant, où il y a un jeu qui pourrait être jeu de l'année qui sort chaque mois. Et souvent, surtout, j'allais dire surtout à cette période, mais disons que c'est l'accélérateur à cette période, mais toute l'année c'est le cas, il y en a 2, 3, 4 qui sortent chaque mois qui sont super intéressants. Et là, c'est sûr que Spider-Man notamment est une sorte de rouleau compresseur. Bon, c'est une exclusivité PlayStation, mais il n'empêche, c'est un rouleau compresseur. Et il est en train, alors puisqu'on en parle, il s'est vendu encore mieux en 3 jours, alors je sais pas pourquoi ils choisissent 3 jours, c'est genre le week-end, mais il s'est encore mieux vendu en 3 jours que le précédent jeu exclusif Sony, qui était God of War. Il s'était vendu à 3,3 millions d'unités, il s'est vendu à 3,3 millions d'unités en 3 jours. God of War, cette année, était déjà la meilleure vente d'exclusivité PlayStation, avec un petit peu moins. Mais donc, coup sur coup, la politique de Sony d'exclusivité de grande qualité se confirme comme une réussite, puisque effectivement, ils en vendent par camion entier. Alors moi, j'avais déjà évoqué Spider-Man il y a 2 semaines. Là, je l'ai fini, donc j'ai un petit peu plus de choses à dire dessus, mais c'est pour moi, c'était vraiment un jeu qui n'a pas grand-chose d'innovant et qui réussit à être hyper plaisant, hyper agréable pour un énorme public qui peut être intéressé par ce jeu, étant donné la folie Marvel et super-héros qu'on a grâce au cinéma, notamment en ce moment. Et toi, J.K., donc, tu me disais que t'étais a priori pas hyper intéressé par le jeu et qu'il t'a convaincu.
Ouais, bah carrément. Moi juste avant la sortie de tout ça, bon, on voyait les trailers de l'E3, les démos, etc. Moi, franchement, j'étais pas loin m'en fiche. Je sais pas si ça se dit.
En restant
poli.
J'étais pas loin de m'en ficher. Enfin,
non, mais
c'est
voilà,
comme
je me suis dit bon, voilà, Spider-Man, j'en suis pas dingue. Je suis pas un énorme lecteur de comics ou un amateur même du MCU. J'aime bien sans plus quoi. J'aime bien Insomniac, c'est vrai, mais c'est un studio pour moi. En fait, je me disais que ça n'allait pas être un mauvais jeu, mais voilà.
Mais pas pour toi, quoi.
Pas pour moi exactement. Et puis les premiers tests sont tombés, les premiers avis et tout. Je me suis dit, ah ouais, non, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Il y a peut-être quelque chose finalement. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est alors je sais pas, encore une fois, j'ai pas joué à Tomb Raider, mais j'ai l'impression que un peu comme Tomb Raider qui reprend une recette connue, mais qui, je trouve, qu'il fait ça extrêmement bien, mais extrêmement fluide. Je trouve que la narration s'intègre bien dans le gameplay, c'est fluide, les missions s'enchaînent de manière intéressante. Enfin voilà, c'est tout simplement plutôt bien écrit pour du comics, c'est bien doublé, la VF, et notamment VF, c'est une très bonne VF. Le système de combat, c'est celui d'aspiré des Batman, mais en même temps, je trouve qu'il va plus loin, il est plus complet.
Il est très adapté à Spider-Man, surtout. Moi, j'avais un petit peu peur.
Ouais.
Peur que ça soit Batman quasiment identique.
C'est
ça. En fait, c'est clairement le système inspiré de Batman, mais c'est aussi clairement un système où tu joues Spider-Man, quoi. Tu joues très très différemment de ce que tu fais dans Batman.
Carrément. Et en fait, ils arrivent à prendre le meilleur d'un côté Rocksteady avec ce qu'ils ont fait sur Batman. Il y a même du Naughty Dog dans la façon dont ils avec justement les cinématiques, avec le gameplay, la façon même dont je vais raconter, il y a quand même une influence très clairement, je trouve, de ce que fait Naughty Dog. De toute façon, Insomniac, Naughty Dog, ils ont des accointances évidentes depuis des années. Ce qui fait que derrière, il y a un jeu qui est super solide et vraiment, il y a ce plaisir simple, tout simplement, de sauter d'un immeuble et de se balancer d'immeuble en immeuble dans Manhattan. et on s'en lasse pas en fait. Enfin, moi pour le moment je m'en suis pas lassé de cette phase, de cette boucle de gameplay en fait, de partir d'un immeuble à l'autre. Enfin voilà, donc c'est une bonne surprise. Puis on sent que c'est un jeu. Enfin, c'est bête à dire, mais on sent vraiment l'amour et le respect du comics. J'ai l'impression en tout cas, et de Spider-Man dans ce jeu. Sûr, et je pense que c'est un jeu qui va énormément plaire. J'imagine que les fans de Spider-Man, même ceux qui sont pas forcément des gens qui sont branchés jeux vidéo, ils ont dû péter un câble en voyant le jeu, parce que c'est magnifique, c'est à l'air d'être fidèle au comics, enfin en tout cas à l'esprit du comics. Donc super boulot quoi.
Ouais, et c'est les retours que j'ai eu depuis le dernier épisode, c'est que vraiment, même les gens qui sont a priori pas clients ou qui étaient pas convaincus, au pire, se sont laissés séduire et se disent « Ah, c'est quand même un jeu sympa ». Même les gens qui sont pas du tout clients de ce genre de jeu grand public, super production, triple A. Donc, ouais, une vraie réussite, franche, claire, et d'ailleurs qui se traduit dans les chiffres. Je pense qu'ils ont fait absolument la bonne approche pour ce jeu-là. Et pour moi qui aime beaucoup l'univers des super-héros, je me dis ça peut donner lieu à d'autres adaptations, même si d'autres super-héros, c'est pas forcément évident de trouver le bon style, parce que là c'était parfaitement adapté dans New York avec le fait de se balancer avec les toiles d'araignée. C'était parfait pour Spider-Man, mais tous les autres super-héros, c'est un petit peu compliqué, quoi. Comment faire encore que on peut trouver des trucs pour les X-Men, pour les Fantastic Four, pour Iron Man, je sais pas, mais peut-être que on aura notre dose de Iron Man avec Anthem dans quelques mois.
Ouais, bien sûr. Bah, n'oublions pas, on parlait juste avant que Eidos Montréal, je crois, ils sont toujours au travail sur un jeu Marvel, un jeu Avengers, donc. Mm-hmm. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont donner, parce que là en plus, si c'est inspiré d'Avengers, ça veut dire que potentiellement on devrait contrôler plusieurs personnages, plusieurs Avengers, donc il y a beaucoup beaucoup de challenges là-dessus en termes de game design et tout ça, quoi. Bon, à voir.
Ouais, le fait qu'on en ait pas entendu parler, ça veut peut-être dire qu'ils se rendent compte à quel point c'est ambitieux s'ils veulent faire un truc de la qualité.
Ouais, c'est sûr, c'est
de Spider-Man, quoi. Donc voilà pour Spider-Man. Je voulais juste dire, sans spoiler, qu'il y a des choses intéressantes qui se passent dans l'histoire aussi. C'était un aspect un petit peu faible quand j'en ai parlé il y a deux semaines. Il y a des choses intéressantes qui se passent, des moments un petit peu surprenants. Et voilà, je ne vais pas en dire plus parce que j'aime pas les spoilers, mais à ce niveau-là aussi, c'est au début, on se dit c'est vraiment juste voilà, c'est marrant de se balader dans New York, et c'est effectivement le cas. Je ne veux pas non plus faire croire que c'est un scénario de fou, mais il a un petit peu plus de profondeur que je pensais au début. Donc bonne surprise pour moi également. Et donc on évoquait le fait que Dragon Quest, tu y as beaucoup joué aussi. J'en avais parlé il y a, ça fait peut-être deux semaines, un mois, je sais plus.
Bah, c'est sorti tout début du mois, donc.
Tout début du mois. Ouais. Donc ça devait être à l'épisode précédent. Mais oui, donc Dragon Quest, pour moi c'est vraiment le RPG super classique, mais qui est tellement solide à la base que il fonctionne. Et en plus de ça, c'est tellement, je veux dire mignon, mais mignon, c'est presque une critique. C'est pas le cas. C'est mignon, c'est beau, c'est une plongée. Peut-être que mes commentaires sont colorés par toutes les reviews que j'ai lues, mais c'est une plongée dans un monde de notre enfance, et ça n'est que positif. C'est-à-dire qu'ils réussissent à prendre ces aspects que moi je considérerais comme un petit peu négatif, et en fait je le considère uniquement comme quelque chose de bien, quoi. C'est ton impression aussi, je crois.
C'est clairement ce qui fait la force de la série depuis le début, je trouve. C'est ce côté un peu naïf et qui peut paraître désuet par rapport à l'univers. C'est vraiment l'aventure comme quand t'avais 8 ans et que tu te faisais une cabane dans un jardin et que tu partais à l'aventure avec tes copains, quoi.
Ouais, exactement.
Et c'est ça qui est intéressant. Alors, on le retrouve peut-être un peu moins dans cet épisode, c'est que derrière, il y a quand même toujours des bonnes histoires, des personnages intéressants, c'est bien écrit, ça navigue tout le temps entre l'humour, très bon enfant, et puis il y a vraiment des moments d'émotion, même dans celui-là. Après, celui-là, il est, même pour un Dragon Quest, je trouve quand même extrêmement classique. Il reprend les bases du 8, donc c'est-à-dire on pourrait croire que c'est un monde ouvert à la The Witcher ou à la, même à la Zelda, mais pas vraiment. En fait, c'est plus des grandes zones interconnectées entre elles, et les zones en elles-mêmes, bon, l'exploration, c'est un peu vide. Il y a pas grand-chose à voir à part quelques trésors, et bien sûr, c'est là que tu vas grinder tu vas battre du monstre pour monter en niveau. Mais sinon, en dehors de ça, c'est vrai que moi, je sais que j'avais adoré à l'époque. Moi, j'ai commencé par le 8, hein, comme beaucoup à l'époque, parce que c'est le premier jeu qui est sorti en France. Et depuis, je me suis rattrapé avec les remakes sur DS. Et notamment, je me souviens du 9 qui avait des composantes online. Il y avait beaucoup de modes de jeux qui étaient sur DS, qui étaient super intéressants, qui étaient assez innovants. Voilà, entre temps, il y a eu. Alors, c'est pas du tout un épisode canonique, mais il y a eu Dragon Quest Builders, pareil, qui innovait pas mal sur la construction, etc. Là, c'est vrai qu'on revient à la base de Dragon Quest de chez classique, quoi. Typiquement, les combats, on peut maintenant déplacer les personnages sur le terrain et changer la caméra, etc. Mais au final, ça n'a aucune incidence, donc ça revient du tour par tour classique, etc. C'est vraiment un jeu qui fait, en fait, on continue à jouer parce que effectivement, on rentre dans cet univers qui est toujours aussi cool. On a envie de suivre l'histoire, mais c'est vrai que le fond, il est vraiment classique. Il y a un autre aspect qui moi me déçoit un petit peu, c'est que j'aime beaucoup les thèmes musicaux de Dragon Quest, les thèmes connus. Ils sont toujours là, tous ces thèmes-là, mais toutes les musiques inédites sont pas très intéressantes. Et surtout, contrairement au 8 qui avait le droit à une version orchestrale, une BO orchestrale dans sa version européenne, là ils ont gardé les musiques au format MIDI. Donc les musiques sont un peu. Alors que Dragon Quest, l'ambiance musicale participe énormément au côté épique et partir à l'aventure. Là, c'est moins le cas, donc c'est un petit peu dommage. Mais sinon, c'est un bon épisode. C'est peut-être si vous connaissez pas la série, je pense que c'est un bon épisode pour s'y mettre parce que techniquement, c'est solide. Enfin, c'est pas incroyablement beau, mais par contre, c'est très mignon. Et ça se joue. C'est assez moderne aussi. Voilà, ils ont ajouté une carte avec les objectifs sont clairement indiqués sur la carte. Il y a tout un système de compétences qui est plutôt chouette aussi, etc. Donc,
un arbre de compétences, ouais,
qui n'était pas le cas avant dans les précédents. Donc c'est vraiment un jeu très mignon, très agréable à jouer. Mais ça reste clairement pas pour moi, en tout cas. Alors je ne sais pas tous faire, mais clairement pas le meilleur Dragon Quest auquel j'ai pu jouer, quoi.
L'avantage, pour moi, le gros avantage qu'il a, c'est quand même, bon, c'est sur une console moderne avec des graphismes d'une beauté incroyable. J'exagère peut-être un petit peu, mais c'est quand même super beau.
C'est coloré, c'est mignon, ouais, c'est voilà. Ouais.
Et c'est accessible, quoi. Donc, Donc, voilà pour Dragon Quest et Spider-Man. Le dernier dont je voulais parler, le dernier jeu de septembre, c'est Destiny 2. Attendez une seconde. Je sais que vous allez me dire. Mais enfin, Patrick, tu avais juré de ne pas acheter l'extension de Destiny. Qu'est-ce qui se passe? Tu contredis, tu vas à l'encontre de tes principes, tu trahis ton éthique, tu es tombé du côté obscur. Alors, d'abord,
oui. Assume, Patrick.
Non, JK, soyons clairs. Ne nous laissons pas influencer par ces fake news qui essaye de pervertir la vérité et la réalité. Qu'est-ce que j'ai dit, JK? Ce que j'ai dit, c'est que j'étais extrêmement déçu de la politique tarifaire de Activision et de Bungie avec Destiny 2, parce que pour cette extension, qui est donc l'extension qui vient un an après la sortie, il était nécessaire d'acheter les deux précédentes mini-extensions de la première année, c'est-à-dire Osiris et Warmind. Et ces deux extensions coûtaient, je crois, devaient être en promo, une vingtaine d'euros, mais c'était pour le principe, tu vois. Et l'extension de cette année coûte une quarantaine d'euros. Et la raison pour laquelle je voulais pas payer ces deux anciennes extensions, c'était parce que j'allais sauter le contenu. Et bien sûr, pour m'intéresser, même si je fais la partie histoire, il n'y a pas le endgame. Donc, on s'intéresse uniquement à la toute dernière extension qui vient de sortir maintenant. Donc, c'était en fait leur donner de l'argent en plus pour du contenu que je ne ferai pas. Donc ça, je l'ai complètement dit, et j'ai dit, mais jamais je ne ferai ça. Que s'est-il passé, mes amis, mes chers auditeurs, mes confidents?
On est pendu à tes lèvres, là.
J'ai trouvé une version, la version légendaire, c'est-à-dire qui inclut tout, pour le prix de l'extension seule, c'est-à-dire 40 euros. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai obtenu ces deux extensions que je ne voulais pas payer gratuitement, puisque je n'ai payé que le prix de la toute dernière extension de cette année. Forsaken, là, les réprouvés. Donc, je suis non seulement resté entièrement fidèle à mes principes et à mon éthique, mais en plus, j'ai, d'une certaine manière, bien rendu la monnaie de leur pièce à Activision et Bungie en ne payant pas ce contenu que j'ai fait.
Bon, écoute, le tribunal populaire de Twitter jugera de la qualité de ton argumentaire, hein, et on va délibérer.
Oui, oui. Non, mais enfin, bon, ceci dit, sincèrement, j'ai payé moi le prix. Moi, j'étais tout à fait prêt à payer l'extension qui vient de sortir, le nouveau contenu. Ce que je voulais pas, c'était payer les anciens. Et de fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai payé le prix de la nouvelle extension, donc ça me va.
Effectivement.
Okay. Donc, bon, j'espère que vous serez convaincus par mon argumentaire. Ceci
moi, je
dit,
suis
j'ai pas.
Bien.
Pardon.
Moi, je le suis en tout cas.
Très bien, merci JK, je savais que je pouvais te faire confiance. Par contre, j'ai pas vraiment joué à l'extension parce que j'ai finalement décidé de faire le contenu des deux précédentes extensions. C'était assez amusant parce que la première, Osiris, est aussi mauvaise que Destiny premier du nom, l'histoire de Destiny premier du nom. Et la deuxième, Warmind, est aussi mauvaise que l'histoire de Destiny 2. Et si vous vous souvenez, quand Destiny 2 est sorti l'année dernière, il y avait plein de gens qui disaient « Ah, enfin, on a une histoire en solo qui est super et qui est machin !» Moi, je disais « Mais... » rien du tout, l'histoire en solo, elle est pourrie, elle est juste moins pourrie que celle du premier Destiny, mais ça reste une histoire de jeu vidéo complètement un petit peu ridicule, qui est... oh mon Dieu, il y a des grands grands méchants qui viennent envahir la planète. Qu'allons-nous faire? Nous ne pouvons nous sauver qu'avec l'arme Zurglobe. Mais... comment ? L'arme Zurglobe est ici ? Vite, allons la chercher ! Et voilà, c'est en gros l'histoire des deux trucs. C'est vrai que le deuxième, donc l'extension Warmind, est un petit peu plus sympa. Je parle uniquement de la partie solo, hein, qui dure à peu près 3 heures. Mais voilà. Et donc, je suis arrivé à l'extension Forsaken, qui, je l'avoue, la première mission que j'ai fait, donc on parle toujours de la partie solo qui est pas du tout le gros de Destiny, le gros de Destiny comme tous les jeux type MMO, jeux de ce type-là, bah c'est le endgame, hein, donc j'y suis pas encore, mais la première mission, j'avoue qu'elle est hyper sympa. Là, pour le coup, c'est vraiment un bon moment de jeu vidéo en tant que tel. Donc je suis, on verra, hein, ça se trouve les missions d'après reviendront dans « Oh mon Dieu, il faut tuer le grand méchant avec l'arme Zurglobe ». Qu'est-ce que j'ai dit, Zurglobe ? Je ne sais plus si on est dans Spirou.
Je crois
qu'on
était sur du Zurglobe, a priori.
Zurglobe, d'accord.
Ouais, c'était sur du Zurglobe.
C'est ça. Et donc, bon, on verra si ça redescend. Et puis surtout, on verra comment ça se passe au endgame, auquel j'espère arriver avant la sortie de Red Dead Redemption 2. Parce que ça risque
reste
d'être...
en moi, quoi.
Encore que. Bon. Donc voilà, pour Destiny 2, mais ce que j'avais à dire sur le truc, je vais évidemment continuer à jouer. Et puis, on va voir si, comme ce que disent... l'ensemble de... J'ai rarement vu une communauté qui disait autant « ça y est, c'est... maintenant c'est bien ». Donc, on va voir si c'est effectivement le cas. Ça a l'air quand même particulièrement plus complet, ce qui est encore une fois dommage, c'est qu'il a fallu attendre la deuxième année de Destiny 2 et qu'ils se sont tellement plantés sur la première année. Mais bon, ça on l'a assez dit, on va pas quand même le répéter jusqu'à la fin des temps ad nauseum. Donc voilà pour Destiny 2. Est-ce qu'il y a d'autres jeux en septembre auxquels t'as joué, qui va le coup
après,
de l'évoquer? Il y en a plein, mais on n'a pas joué à tout.
Il y a des jeux indés qu'on n'a pas évoqués, mais si on commence à parler de tous les jeux indés qui sortent sur Switch, notamment, on n'est pas rendu. Allez, je fais quand même une toute petite... en plus, comme ça, je fais un peu de pub. Dans le dernier ZQSD, alors qui n'est pas encore en ligne, mais on a reçu Boule à Pouvoir, figure-toi. Mathieu, qui travaille chez Playdus maintenant, tu sais, l'éditeur français qui bosse pas mal justement sur des projets indés. Enfin, c'est un petit peu un modèle à la Devolver, en fait. Ils travaillent avec des petits studios, etc. Et ils viennent de sortir un jeu qui est vraiment très sympa, qui s'appelle Old School Musical, qui est sorti sur console, sur PC et Switch, qui est typiquement un rhythm game, donc un jeu où on doit appuyer sur des boutons en rythme, en gros. En version chiptune, donc 8 bits, avec une BO 8 bits chiptune qui est super cool, et qui Et surtout, c'est le premier Rising Gag auquel je joue qui a un vrai scénario qui se suit, qui je trouve très drôle. C'est un jeu très drôle. C'est un scénario un peu débile, mais très sympa. Et ça rend hommage en fait à plein de périodes différentes du jeu vidéo. En fait, c'est bourré de références, mais sans que ce soit fatigant en fait, parce qu'il y a plein de jeux maintenant. Les références à l'histoire du jeu vidéo, il y en a plein, et des fois, c'est un peu fatigant. Là, je trouve que c'est fait vraiment avec beaucoup de respect, beaucoup d'humour, et c'est sympa. Et si vous aimez la bonne musique chiptune de jeux vidéo, c'est vraiment super. Super sympa à jouer. Donc voilà, ça s'appelle Old School Musical et c'est peut-être dans les petits jeux indés, on va dire, du mois de septembre, c'est celui qui est le plus notable à mon avis.
D'accord, bon bah très bien. Voilà. Old School Musical, donc c'est sur Switch uniquement, enfin j'imagine.
Non, Switch aussi, console portable et PC. Voilà, bah, après évidemment sur Switch c'est le format idéal pour ce genre de jeu, mais voilà.
Comprends. Voilà. Très bien, donc Old School Musical. Bon bah écoute, ça nous permet de parler d'une bêta, la bêta de Blackout, le mode Battle Royale de Black Ops 4, auquel j'ai pu jouer un petit peu. Alors je suis pas le plus grand fan des modes Battle Royale de l'histoire, mais d'après ce que j'ai pu constater moi-même, et j'ai l'impression le consensus, c'est que bon, comme je le dis souvent, après une réaction un petit peu épidermique au « Ah, mon Dieu, tout le monde fait son Battle Royale, c'est tellement bon. Ridicule ouais. », je crois qu'on est en train, en tant qu'industrie, de réaliser qu'en fait, c'est pas forcément une mauvaise chose, qu'il y a plein de genres de jeux qui sont nés à partir d'un jeu, et qu'il y a eu des trucs hyper intéressants qui ont été faits par des « entre guillemets copies », et j'irais même jusqu'à dire que c'est presque comme ça qu'arrivent les nouveautés, c'est que tu as un genre qui est intéressant et les autres sociétés se mettent à je veux pas dire innover non plus, mais enfin inventer des trucs à partir de cette base, et ça peut donner des trucs intéressants. En l'occurrence, Blackout, c'est quand même, comment dire, c'est PUBG sans tous les trucs entre guillemets chiants de PUBG. C'est à dire que c'est un PUBG, un PlayerUnknown's Battleground hyper peaufiné, hyper poli avec amour, hyper arcade. Donc il y a quand même, bon, les super hardcore de PUBG resteront sur PUBG parce qu'il y a des petits détails qui font qu'ils préfèrent ce jeu à un autre, mais Blackout est quand même beaucoup plus fun plus vite. On n'est pas planqué dans un buisson pendant 2 heures à attendre que quelqu'un passe, ou on voit personne pendant une demi-heure de partie, et puis tout à coup il y a quelqu'un qui saute d'un toit et qui te tombe dessus avec un fusil à pompe et t'explose, et donc ça y est, t'es mort. C'est beaucoup plus arcade et oui, beaucoup plus peaufiné. Le jeu fonctionne, il tourne super bien, t'as pas des bugs partout, je pense pas qu'il va faire très mal à Fortnite, même si bon, généralement Call of Duty, il y a beaucoup de jeunes gens qui y jouent. Mais il n'est pas impossible qu'une bonne quantité de frustrés de PUBG se disent « Ah bah là, c'est quand même semi-réaliste et au moins, c'est un peu plus fun, quoi.
Ouais. » Donc, en termes d'accessibilité et de convivialité, c'est à mi-chemin entre PUBG et Fortnite, ce que tu aurais pu en voir.
Ah, j'irais même jusqu'à dire que c'est carrément au niveau de Fortnite.
Ah oui, d'accord. Okay.
C'est hyper facile, tu te lances très très vite, c'est fun tout de suite. Et en plus de ça, t'as pas toute la mécanique de construction qui rebute quand même certaines personnes, pas grand monde, parce que d'ailleurs ils viennent d'annoncer 78,3 millions de joueurs mensuels Fortnite.
Ça va.
Rendez-vous compte, 80 millions de joueurs mensuels. Bon, c'est un free to play, mais quand même mensuel, c'est à dire qu'il y a des gens qui reviennent tous les mois, quoi. Enfin, tous les mois. Que ils ont eu 78 millions de joueurs ce mois-ci. C'est pas depuis le lancement du jeu. Donc bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de Fortnite et qui le resteront. Mais le fait qu'il y ait pas cette mécanique de construction pourra plaire à certains. Donc.
Bah ouais, c'est cool. Puis le gameplay assez nerveux des Black Ops. Peut bien s'adapter, et après je sais pas si du coup j'imagine que pour que ce soit un peu plus nerveux et tout, j'imagine que la taille de la carte doit être réduite par rapport à du PUBG. Je crois que celle de Fortnite est globalement plus petite, donc je pense qu'on est plus proche. Je pense par exemple que ça va plus être un concurrent de Fortnite que de PUBG finalement, quoi, ce jeu. Bah même s'il sera pas gratuit, ça dit, mais voilà.
Ça pose la question du modèle économique, parce que évidemment il faut qu'il y ait beaucoup de monde sur, mais pour le coup c'est vraiment un troisième pilier, c'est peut-être même possiblement le pilier principal de Call of Duty. Et et on se rend compte que s'il n'y a pas de version solo, bah peut-être que c'est pas forcément nécessaire, parce qu'il y a effectivement le Call of Duty c'est multi ça. Classique. Il y a le mode zombie qui est devenu un truc vraiment tentaculaire.
Obligatoire, quoi. Ouais, et puis tentaculaire en plus, ouais.
C'est ça, il est vraiment imposant. Et puis il y a le mode blackout, ça commence à devenir une offre intéressante commercialement pour le prix du jeu. Mais bien sûr, ça divise la communauté en trois modes, j'imagine principalement entre les deux modes classique et Battle Royale. Mais oui, le modèle économique, du coup, si le Battle Royale connaît vraiment un gros succès, comment est-ce qu'ils vont faire, enfin, l'année prochaine, est-ce qu'ils en sortent un autre?
C'est compliqué.
Est-ce qu'ils le transforment en mode free-to-play au bout de 6 mois ou 1 an ou ce que c'est? Ils disent, bon, voilà, on se concentre. Il n'est pas impossible, si Blackout marche super bien, que l'année prochaine, il se transforme en mode free-to-play et que il.
C'est peut-être ça qu'ils auront intérêt à faire. C'est, bon, après, on verra si le succès du mode Blackout est là. Parce que moi, clairement, j'ai joué à Code 4, enfin, Code 4, n'importe quoi, Black Ops 4, enfin, Black Ops, bâton 1, bâton 2, bâton 3, bâton 4, à la Gamescom, et pas sur le mode Blackout, hein, et c'était quand même un peu nul, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'était.
C'est les modes Duty, quoi.
Voilà, les modes que j'ai fait. Enfin, juste avant, j'ai joué à Battlefield 5, tu vois, en termes d'ampleur, de mise en scène, etc. C'était un peu. Ça tenait difficilement la comparaison. Après, c'est compliqué de voir ce qu'ils font avec cette licence, parce que l'année dernière quand même on avait je trouve une excellente surprise avec World War II qui revenait à une bonne campagne solo bien écrite, bien mise en scène, bien scénarisée, très agréable à jouer. Et là, avec ce nouvel épisode, hop, un revirement à 180 degrés, pas de campagne solo, on vous met un mode Battle Royale. Donc peut-être qu'à terme, ils vont essayer de jongler avec les deux. Si le succès du mode Battle Royale est là, il va être conservé, pourquoi pas en passant gratuit avec des mises à jour, etc., comme n'importe quel aujourd'hui mode Battle Royale, même si PUBG est payant, mais bon, bref. Et pourquoi pas, après, continuer à faire du Call of, peut-être plus scénarisé, plus solo. Moi, c'est ce que j'aimerais, en tout cas.
Une année sur deux, tu veux dire.
Ouais, une année sur deux. Mais quand même, garder quand même ce mode Battle Royale qui va devenir une sorte de jeu à part entière, en fait, au final. Enfin,
il n'est pas impossible même qu'ils le sortent.
On peut imaginer ça, quoi.
Qu'ils le sortent de l'ensemble. Enfin, non, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le vendre. Ils vont baisser le prix comme ils le font toujours de Call of Duty. Enfin, Call of Duty se vend toute l'année. Et ils vont baisser le prix, même si les gens ne jouent que à Blackout. J'y pensais et je me dis, il vaut quand même mieux que tout le monde paye 30€. Comme c'est le cas sur PUBG. Tout le monde paye 30€ et puis certains mettront un petit peu d'argent en plus. Je suis sûr qu'il y a des microtransactions. Mais tu chopes 30€ de la part de tous les gens qui y jouent. Donc c'est quand même de l'argent. Après, tu vois, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras.
On pourrait même ne vendre que le mode Blackout à 15€, je sais pas, acheter. À moins cher, tu vois.
C'est ce que je pensais, mais je me dis qu'ils vendent déjà le jeu baisse de prix et c'est un petit peu. Bah, peut-être, tout est possible. Mais je crois que Call of Duty baisse de prix aussi, quoi qu'il arrive. Et puis il y a des week-ends gratuits, et puis etc. Mais bon, on verra. Mais c'est vrai que cette idée d'avoir une année sur deux un truc solo et une année sur deux un truc pas solo, peut-être que ça pourrait réveiller un petit peu l'intérêt des joueurs. Par contre,
la licence se cherche un peu parce qu'ils ont quand même eu des années un peu sombres avant.
Licence qui a 15 ans, quoi.
Ouais, voilà. Et puis World War II et l'épisode qui a un peu remis le truc sur la scène parce qu'il s'est très bien vendu en plus. Ça a été un succès globalement critique et public. Et là, justement, le move qu'ils font avec Black Ops 4, je suis curieux. Je sais pas si ça va prendre. J'espère pour eux que ça prenne. Je pense que voilà, ils jouent quand même une carte assez risquée leur move.
Sur le backup, moi je dirais que au contraire, ils ont intérêt à ne pas faire exactement la même chose tous les ans. C'est quand même ce qu'on leur reproche et ce qu'on reproche à toute l'industrie. Ils auraient pu refaire un mode. D'une part, ce jeu était en développement avant qu'ils ne sachent comment allait fonctionner bien ou mal World War II. Mais ils ont aussi intérêt à faire des choses un petit peu différentes chaque année. S'ils font pile la même chose chaque année comme ils l'ont fait pendant des années, on est quand même à 80% de la même chose, ou à 50% de la même chose.
Ouais, c'est sûr.
Ils
ont essayé des trucs futuristes, ils ont essayé de partir dans des trucs de guerre moderne, etc. Donc ils ont pour le moment pas encore retrouvé leur recette miracle qui va les faire tenir encore 10 ans, quoi, tu vois.
Non, mais bon, je crois que ça tient quand même pas mal.
Ça va.
Et bon, Blackout, je crois que de l'avis général, c'est quand même une bonne surprise. Donc,
a priori, ouais.
Et tu disais, ouais, Battlefield, c'est quand même vachement mieux ficelé, machin. Oui, mais le problème, c'est que c'est un type de qualité que cherchent certains joueurs. L'ensemble des joueurs cherchent quand même un truc arcade, sympa à jouer et facile d'approche. Et Battlefield, c'est moins le cas, c'est moins ça que Call of Duty. Et d'ailleurs, leur mode Battle Royale à Battlefield, qu'ils ont annoncé, bon, qui fait pas énormément de bruit, c'est le mode Firestorm. On verra ce que ça donne, mais c'est effectivement un truc un petit peu plus ambitieux. Il y a des objectifs, il y a des trucs comparables au mode conquête. Enfin, bon, et entre parenthèses, je ne sais pas si on l'avait évoqué, mais Battlefield est décalé en novembre pour peaufiner et peut-être aussi pour sortir de la fenêtre.
Ouais, parce que là, c'est chaud, la fenêtre de lancement original. Tu m'étonnes, ils sont écrasés quoi. Même si Battlefield c'est une grosse licence, mais ouais, c'est chaud.
Bah, ils ont retenu la leçon de Titanfall 2, ce qui est pas mal chez EA.
Oui, par exemple. Effectivement, pas son âme.
Dernière, note sur PUBG. Ils ont promis qu'ils allaient améliorer l'expérience sur Xbox. Enfin, ils ont réduit les aspects graphiques pour que le jeu tourne enfin bien. Ils ont ajouté un mode classement dans le jeu, enfin un système de classement dans le jeu, ce qui permettra peut-être de donner un objectif long terme pour les joueurs. Et bon, même si, encore une fois, PUBG n'est pas vraiment à plaindre, ils sont plus aux millions de joueurs quotidiens qu'ils avaient depuis un an. Donc, bon, c'est pas la fin des haricots non plus pour PUBG, mais et ça va très très bien. Je dirais même que c'est les haricots sont verts et juteux, mais s'il y a une tendance, elle est pas à la hausse chez PUBG.
A priori, là justement, c'est bête, mais en live, je viens de tomber sur une news sur jeuxvideo.com des meilleures ventes de la semaine sur Steam. Et bah, PUBG est revenu premier, ce qui n'était plus le cas, depuis peu. Là, donc, voilà. Et le deuxième, c'est Tomb Raider, tu vois, comme quoi, Shadows of Tomb Raider.
Ah, bah écoute, oui.
Après, c'est l'effet semaine de lancement, c'est toujours comme ça hein, en général, mais bon. Mais oui, donc clairement, surtout que voilà, contrairement à Fortnite, PUBG est vendu 30€, même s'ils ont moitié moins de joueurs, ça va.
Ouais. Et d'ailleurs, bah, on évoquait pour Tomb Raider, on parlait de Spider-Man et de l'exclu PlayStation. Tomb Raider est dispo sur Xbox, donc c'est peut-être un truc qui peut intéresser les joueurs Xbox aussi. Et puisqu'on parle d'exclusivité, PUBG est visiblement en train de perdre son exclusivité Xbox One, Microsoft est en train de perdre l'exclusivité, ou pas de perdre, mais enfin, elle arrive à son terme, puisqu'il serait bientôt de sortie sur PlayStation également. Donc. Voilà ouais, pour les news Battle Royale. Parlons justement encore un petit peu de Sony avec l'annonce de la PlayStation Classic. J'avoue que je commence à... Moi, je ne suis pas client des consoles mini rétro qui sortent depuis 2 ans. Ouais. Elle sort pour 100$. Je ne connais pas le prix en France, mais j'imagine que ça sera autour de ce prix-là.
Ça sera pareil, ouais.
Ouais. Avec 20 jeux, elle arrive en décembre. Client, pas client ?
Bah moi client, évidemment client. Non mais moi c'est vrai que j'aime bien. Enfin après j'ai pas un affect particulier avec la PlayStation 1. Moi j'étais plus, je suis plus, je garde précieusement ma NES classique et ma Super NES classique quoi. Affect client oui, mais enfin en fait. Moi, il y a un truc qui m'énerve particulièrement en ce moment, enfin, de manière générale, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une annonce de ce genre de console, t'as plein de gens qui disent, oui, je comprends pas, pourquoi vous payez ça alors que vous achetez un Raspberry Pi, vous avez la même chose avec des jeux.
Non, mais enfin, ça.
Non, mais il y a plein de gens à chaque fois, et là, la PlayStation Classic, c'était pareil. Et il faut vraiment je pense que la majorité des gens, c'est le cas, qui achètent ça, c'est que ce sont des objets de décoration avant tout. C'est un objet geek que t'achètes pas ça, moi je vais être honnête, ma NES classique ou ma Super NES classique, j'ai dû y jouer 5 fois, tu vois, parce que ça me fait marrer tout ça, mais c'est juste des objets que j'ai envie d'avoir chez moi parce que je trouve que c'est des beaux objets, ce sont des beaux objets.
Et c'est presque un hommage à une période de ta vie, quoi.
C'est exactement ça. Et c'est lié forcément à l'affect que je peux avoir pour telle ou telle console. C'est pour ça que moi, je te l'ai dit, j'ai eu une PlayStation et j'adore la PlayStation, mais voilà. Donc du coup, voilà, je suis pas, après, je, Bon, je trouve ça un poil cher. Il va falloir voir un peu la qualité de la finition. Le stick, c'est la manette d'origine, donc il n'a pas c'est pas la version DualShock, donc il n'a pas les sticks analogiques. Les jeux annoncés pour le moment, donc il y en a 20, mais ceux qui sont confirmés, c'est FF7, Tekken 3, Ridge Racer Type 4, et il y en a un autre, donc j'ai oublié le nom, je ne sais plus. Donc voilà.
Il n'y a pas Toshinden peut-être.
Il y a peut-être Toshinden, ouais. On peut évidemment se douter qu'il y aura moins qu'ils aient du mal à négocier les droits, mais il y aura du Crash Bandicoot, il y aura du Resident Evil, j'imagine. Enfin, voilà.
À mon avis, ils sont bien avec Naughty Dog, je crois que Crash.
Oui, enfin, avec Naughty Dog.
Enfin, remarque, il y a Activision. Dog, pour, évidemment. Il y a Activision.
Oui, parce que
Crash,
n'oublions pas que Naughty Dog est plus du tout dans la boucle de Crash Bandicoot. Donc voilà. Oui, tout simplement, à chaque fois qu'il y a une mini-console ou un truc rétro qui sort, je suis au moins intéressé, je vais pas dire que je l'achète, hein, mais ça m'intéresse parce qu'en plus, voilà, c'est un truc que j'aime bien tester pour le taf et tout. Voilà, donc non, c'est pas une surprise, c'est évident qu'ils allaient s'y mettre et voilà, et là, ça va être Noël, il y a quand même des chances qu'ils en vendent quelques millions, quoi. Enfin, voilà, quoi.
Peut-être, ouais.
Après, il faut quand même pas oublier que la PlayStation, elle a marqué vraiment l'histoire du jeu vidéo. Donc, elle a marqué surtout des millions de personnes, des millions de joueurs qui ont découvert le jeu vidéo peut-être même tardivement, tu vois. Donc c'est clair que la cible, elle est évidente. C'est le père ou la maman ou le papa de 30, 40 ans qui ont connu ça quand ils avaient 20 ans et ça va leur faire plaisir, quoi.
C'est vrai que la PlayStation, mine de rien, c'est la console qui a sorti le jeu vidéo de l'univers des enfants.
Bah, c'est
ça. Et moi, j'ai un pote qui n'avait rien à faire de la NES Mini ou de la Super NES Mini ou de quoi que ce soit de ce type-là. Quand la console a été annoncée, c'est pas qu'il s'est dit « Oh, je l'achète tout de suite », c'est que ça lui a rappelé suffisamment de souvenirs pour m'envoyer, non pas un snap ou un message privé sur Instagram, tu vois, c'est pas des gens modernes comme ça, il m'a envoyé un email. Et il a envoyé un email en disant « Ah, oh, mais t'as vu, la PlayStation, c'était des moments tellement marrants, et regarde comme c'était horrible le look de ces trucs-là. » Or que Tekken 3, ça va encore, mais c'est vrai que même chez moi, ça m'a rappelé... en fait... J'ai l'impression que la PlayStation, c'était la première console vraiment dont on se souvient comme une console sociale. C'est-à-dire la console dont tu te souviens parce que tu jouais avec tes potes à des jeux du type les jeux de combat, les trucs comme ça. Bien sûr, moi, j'ai passé des mois entiers sur Street Fighter ou sur Mario Kart, sur Super NES, mais c'était la PlayStation, c'est la console des étudiants qui jouaient dans ce contexte, quoi. Donc... Ouais. Oui, ça
c'était la console de l'âge plus ou moins adulte et voilà. Et par contre, après, c'est clair que je pense qu'il y a plein de jeux qui vont prendre une sacrée claque. Vont prendre une sacrée claque en lançant tel jeu parce que on sait très bien que la 3D vieillit beaucoup plus vite que la 2D. Donc, je pense qu'il va y avoir certains jeux qui risquent de piquer un petit peu, quoi.
Sega a annoncé d'une part qu'ils repoussaient leur console Mega Drive Mini en 2019, peut-être pour la peaufiner un petit peu plus, et d'autre part qu'il y a un bundle, enfin c'est un bundle qui existe déjà sur Steam, mais qui va arriver sur Nintendo Switch, ce qui a conduit certains petits malins à annoncer que la Mega Drive avait enfin trouvé sa vraie plateforme, c'était la Switch. Donc oui, c'est vrai que c'est sans doute le meilleur moyen de jouer à ces jeux-là, quoi.
Bah, ces compiles existent depuis des années sur PC, notamment. C'est vraiment le gros pack de jeux Mega Drive, les grands classiques. On les a vus 40 fois, mais voilà, si on veut jouer à Street of Rage sur Switch, bah ça va être le seul moyen, quoi.
Quelques petites news. Ah non, j'allais oublier le PlayStation Now qui rejoint le Xbox Game Pass. Sony a également annoncé que son PlayStation Now, qui est donc un service de jeux en streaming, donne désormais la possibilité d'installer également les jeux PlayStation 4 et les jeux PlayStation 2. La PlayStation 3 est sans doute un petit peu trop puissante pour être émulée sur la PlayStation 4, c'est ce qu'on imagine. Donc ils sont pas encore peut-être, mais en tout cas pour le moment, ils sont pas disponibles dans cette offre. Mais du coup, ça fait un petit peu le meilleur des deux mondes pour le PlayStation Now. Il y a quelques jeux qui seront pas installables, mais j'ai l'impression que dans l'ensemble, la plupart le sont. On savait que ça allait arriver vu la logique, hein, c'est juste beaucoup plus pratique pour certains d'installer le jeu plutôt que de devoir y jouer en streaming s'ils ont pas la bande passante ou le ping qu'il faut. Donc comme je le disais, ça rejoint le Xbox Game Pass dans la possibilité d'installer les jeux. Par contre, le Xbox Game Pass n'a pas la possibilité de streamer, mais le Xbox Game Pass a les jeux récents, en tout cas les jeux Microsoft qui sortent en même temps.
Les first party, ouais.
C'est ça. Alors que sur Sony, si vous voulez jouer à Spider-Man ou God of War, il faut les acheter. Donc, ça rend le truc un petit peu plus intéressant, je pense. Ça change pas non plus la face du monde, mais c'est une offre qui, du coup, devient utilisable par plus de gens, on va dire.
Ouais, c'est clair. Surtout que le PlayStation Now, pour l'avoir testé en streaming et tout, et pour avoir testé d'autres services de streaming, c'est pas celui qui marche le mieux. Donc, le fait qu'on puisse télécharger en tout cas une partie des jeux, c'est bien.
Oui, tiens, ça j'étais pas au courant. Les serveurs de Sony ont pas l'air d'être aussi performants, peut-être que.
Je sais pas si c'est que
t'as essayé Shadow, le PC.
J'ai essayé Shadow, j'ai essayé GeForce Now chez Nvidia. Oui, après c'est des offres complètement différentes parce que Shadow c'est un PC complet que tu profites d'un PC complet.
Non, mais c'est l'aspect streaming après.
Oui, voilà, oui. Enfin, après c'est. Enfin, disons qu'aujourd'hui le service, la techno qui marche le mieux, je pense que c'est celle de Shadow. Celle de Nvidia, je pense, a un gros potentiel, mais pour le moment c'est encore en bêta. Et en fait, le PlayStation Now existe depuis longtemps, donc ils sont a priori sur des anciennes technos de streaming et de compression, ce qui fait que ça marche moins bien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le PS9 fonctionne sur PC aussi. Donc, c'est rigolo parce que du coup, ça permet de jouer à. Je crois qu'il y a Red Dead qui est sorti. Oui, par exemple, ça permet de jouer à Red Dead Redemption sur PC, hein, techniquement.
Et Bloodborne vient d'y arriver, je crois qu'on en parlait la dernière fois.
Si tu veux jouer si on a un PC et qu'on veut jouer à Bloodborne, aujourd'hui c'est possible, moyennant une bonne connexion. Et c'est pas parfait, mais c'est possible. Ça fonctionne. Ouais.
Donc voilà pour les petites infos Sony. Parlons donc du Tokyo Game Show avec les quelques. Alors il y a eu évidemment plein d'annonces, pas forcément des annonces hyper importantes pour nous, mais parlons de quelques-unes. Un nouveau trailer pour Death Stranding avec cette sorte d'énorme chien monstre de pétrole bizarre. Petite réaction.
c'est exactement ce que j'ai dit quand j'ai vu le trailer.
Ça paraît bien comme réaction.
Death Stranding, c'est un jeu très mystérieux, mais qui m'attire quand même. Je suis pas un fan plus que ça de ce que fait Kojima, mais clairement, il a trouvé un truc. Enfin, il y a une personnalité dans le jeu qui est assez incroyable. Je crois que c'est Troy Baker qui jouait
le méchant.
Troy Baker a du coup un rôle dans le jeu. C'est un univers qui est extrêmement attirant. Par contre, bon, même si on a vu un peu de gameplay à l'E3, c'est toujours compliqué de savoir exactement ce que ça va être, quoi, ce que va être ce jeu. Et pour le moment,
n'a pas l'air d'en dire plus. Non. Et ça reste bon. Ok.
On comprend que ça va être très certainement un boss ou un truc comme ça, mais surtout traditionnellement, Kojima, les boss, ils aiment bien ça. Enfin, dans Metal Gear, ils étaient toujours tous très charismatiques, souvent. Donc bon, voilà. Mais j'ai pas une hype de fou sur ce jeu, quoi. Je vais pas se mentir.
D'accord. Bon, ce trailer n'a pas changé grand-chose pour toi.
Non.
Je crois que effectivement, ça change pas grand-chose pour qui que ce soit. Si vous aimez, vous aimez toujours. Si vous n'êtes pas client, vous serez pas plus client avec ce truc qui reste encore une fois.
C'est ça.
Comme tu le disais. Dragon Quest 11. Bon, on n'a pas de date, mais en tout cas, il y a un nom. C'est Dragon Quest 11 S, la version Switch. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle sera graphiquement moins bonne ou qu'ils auront des voix en plus ou Dieu sait quoi ? On ne sait pas. Mais en tout cas, ils en parlent. Ça veut dire que si vous attendez la version Switch pour y jouer, elle n'est pas annulée. Donc, c'est déjà
non,
ça.
Non, voilà. On ne sait pas quoi elle sort, hein. aucune info. Et je sais qu'ils avaient eu des infos quand même, ils s'étaient un peu exprimés, je sais plus qui, chez Square s'était exprimé en disant qu'ils avaient pris beaucoup de retard parce que.
Techniquement, c'était plus compliqué qu'ils le pensaient.
Techniquement, c'était extrêmement complexe, ouais. Maintenant, a priori, il y a eu des mises à jour au niveau de l'Unreal Engine, parce que ça fonctionne sur Unreal Engine. Il y a eu des mises à jour de l'Unreal Engine qui fait que, on le voit notamment sur Fortnite, ce qui fait que maintenant, c'est beaucoup plus facile et souple d'adapter l'Unreal Engine sur Switch, quoi. Donc, ça va peut-être accélérer les choses.
Possible. Sega a annoncé Puyo Puyo eSports. Et c'est marrant parce que, Puyo Puyo est un jeu, un Tetris-like d'il y a.
Un puzzle game,
ouais. Des décennies maintenant.
Ouais.
Mais c'est marrant parce que c'est un jeu qui serait parfaitement adapté à l'eSport. C'est du 1 contre 1, facile à comprendre, etc. Et pourtant, il n'y a pas vraiment de scène eSport de ce type de jeu. C'est, j'en ai presque été surpris. Alors, je sais pas s'il le destine vraiment à un e-sport ou c'est juste le nom de l'édition. Je sais qu'il y a techniquement une scène e-sport Puyo Puyo, mais bon, c'est pas le truc le plus connu de la Terre. Mais ça m'a fait penser au fait que, tiens, c'est bizarre, pourquoi ça, c'est pas un vrai e-sport, quoi. Il y aurait une opportunité pour les éditeurs de ces jeux-là.
Alors que c'est des jeux quand même qui à très haut niveau, qui peuvent être extrêmement impressionnants à regarder et hyper hardcore.
C'est ça, enfin, ouais, c'est spectaculaire.
C'est ouais, tout ça Tetris ou Puyo Puyo. Enfin, ouais, bah je pense que ça reste malgré tout aujourd'hui, ça reste des genres de niche. Hein, voilà, c'est des jeux. Tu vois, c'est des jeux de toilette, j'allais dire. Mais enfin, tu vois, c'est des jeux auxquels tu joues.
Je comprends ce que tu veux dire. Oui.
Ouais, voilà. Mais effectivement, il y a quand même des fous furieux qui ont un niveau incroyable. Mais je pense qu'ils sont pas suffisamment nombreux et il y a pas suffisamment d'argent à se faire pour lancer le truc. Quoi.
Oui, mais justement, ça pourrait être un cercle vertueux. Moi, je pense que Puyo Puyo, c'est un jeu qui est, tu sais, qui. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent n'ont pas pensé à Puyo Puyo depuis des années et se disent ah ouais, je me referais bien une partie de Puyo Puyo là. Tu vois, c'est.
Il paraît que le Puyo Puyo Tetris est super cool hein, sur Switch. Hein. J'avais essayé la démo, c'était plutôt sympa, mais.
Pareil, ouais. Mais tu sais quoi? Ouais. Moi, je pense que ce genre de jeu, comme les jeux, on dit de l'e-sport, pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie expertise. Et oui, tu peux avoir une expertise dans une version Puyo Puyo contre Tetris, machin, mais c'est un peu trop bordélique. On n'est plus assez dans la période qui était dans les années peut-être 90, début 2000, de ce type de jeu pour se permettre ce genre de fioriture avec tout le bordel entre Puyo Puyo et Tetris. Tu offres une expérience un peu plus pure, juste Puyo Puyo, et tu permets aux gens de maîtriser le truc, ça pourrait marcher encore mieux que Puyo Puyo Tetris. D'ailleurs, si je ne m'abuse, cette version e-sport sort sur Switch. Ouais, c'est le cas. Switch et PS4. Donc, franchement, Puyo Puyo e-sport, 19€ sur Switch, carton assuré. Voilà. Ces gars.
Allez, Patrick, tu lances ta team. Tu lances la team Béja, là, et ouais, tu recrutes des mecs. Et,
j'irai peut-être pas jusque-là.
Et tu te fais de l'argent à plus tard qu'on fait. Voilà.
C'est ouais, exactement. On va aller dans le Patrick Stadium.
le fameux, ouais.
Pour le. Ouais, en plus, les Puyo, ils sont tellement mignons, franchement.
Oui, en plus, mais grave, c'est trop chou.
Puyo. Excusez-moi. Tiens, un autre truc qui nous revient de notre enfance. Castlevania, si je te dis le meilleur Castlevania, c'est quoi ?
Tu veux que je te troll ou pas ? Parce que j'ai le truc sous les yeux. Non, mais le plus connu, en tout cas, celui qui est le plus apprécié, c'est Symphony of the Night. Mais personnellement, mon préféré, c'est. Je pense que c'est Eye of Sorrow sur Game Boy Advance. Mais bon, après,
c'est vrai qu'il était bien, Eye of Sorrow.
Ouais, je l'imagine hipster, mais ouais.
C'était quand même Aria of Sorrow, c'était quand même Symphony of the Night version Game Boy Advance.
Ouais, ouais. Bien sûr. Non, mais oui, Symphony of the Night, évidemment, le plus. Enfin, le mythique, quoi.
C'est ça. Eh bien, il sortirait peut-être, sans doute, en remake, sur PlayStation 4, dans pas trop longtemps. Clairement, il y a eu une ils l'ont soumis, comment on dit ? Ils l'ont.
Si, c'est soumis. Ils ont soumis,
ouais, à l'autorité de régulation coréenne. Donc, il devrait être annoncé et arriver bientôt, peut-être pour le. C'est le genre de jeu qui peut être annoncé et sortir dans la foulée, peut-être au PlayStation Experience en décembre, possible.
Ouais, après, est-ce que ce serait une exclu pour Sony ? Ça, rien n'indique, hein, parce que il n'y avait pas aucune raison que Konami se contente de, entre guillemets, de la PS4, même si c'est un gros marché. Hein, mais...
C'est vrai, non, t'as raison. C'est quand même société japonaise. Mais peut-être il sort un mois avant sur PlayStation.
Ouais. Puis bon, Konami n'étant plus vraiment que l'ombre de lui-même par rapport à ce qu'il a été, bon voilà, il mise, ce serait pas déconnant qu'il mise sur des anciennes licences en version remake. Hein. On n'est pas non plus à développer des nouveaux jeux, mais c'est déjà pas si mal pour eux, quoi.
C'est vrai, ouais. C'est pas si mal pour Konami déjà d'avoir. Ouais. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Et enfin, un jeu que j'ai vu passer, c'était au reportage Game Cult du TGS, qui m'a un petit peu intrigué. En fait, il avait été visiblement annoncé à l'E3 et je l'ai pas du tout vu. C'est Ninjala. Ninjala, c'est un jeu de Gung Ho. Gung Ho, c'est ceux qui ont fait Puzzle and Dragons, jeu hyper méga super méga populaire à l'origine sur mobile, mais qui est arrivé ailleurs. ailleurs, peut-être pas avec autant de succès, mais c'est un petit peu d'inspiration lointaine, splatoonienne, on va dire, où on joue des genres ninja urbains, c'est très enfantin, et ils se battent avec du chewing-gum et des battes en, pas en mousse, mais genre des bâtons en plastique, et c'est ce genre d'univers un petit peu amusant qui m'a intrigué. On va dire, c'est pas un jeu qui va révolutionner le monde, mais c'était intriguant, intriguant. Voilà, c'est un petit jeu, et comme le dit très bien Greg dans son analyse, c'est le premier Splatoon-like, même si c'est pas exactement un Splatoon, c'est quand même un jeu compétitif, multi, vraiment où on n'aurait aucun souci à y mettre ses enfants, puisqu'ils se battent avec du chewing-gum et des trucs en mousse, quoi. Donc c'est assez mignon, assez sympathique. Moi, ça m'a intrigué.
Bah écoute, j'ai pas du tout entendu parler de ça, donc je vais aller voir.
Ninjala, ça s'appelle.
Ninjala, ok.
Bon, pour conclure, parlons de quelques sujets un petit peu plus sérieux, notamment la fermeture de Telltale Games, dont tu m'as dit que tu voulais en parler, donc je vais peut-être te laisser la parole pour que tu expliques ce qui s'est passé.
Bah alors, Telltale, rapidement pour la représenter, c'est un studio qui existe depuis 2004, mine de rien. Mais ce qui, c'est, je sais plus, en 2012, ils ont vraiment explosé sur le vent. Ils ont vraiment explosé puisqu'ils ont fait The Walking Dead. Vous avez peut-être joué à The Walking Dead, le jeu d'aventure The Walking Dead, qui était donc des jeux épisodiques. Entre temps, en fait, Telltale, donc ils sont spécialisés dans le jeu d'aventure très narratif. Et après The Walking Dead, il y a eu tellement de succès qu'ils ont vu, peut-être, ils ont été un peu plus trop gourmands et se sont mis à adapter. Licence sur licence, on a eu The Wolf Among Us qui était tiré de Fable, qui était très bien. Il y a eu récemment Game of Thrones, il y a eu Batman, ils ont fait Les Gardiens de la Galaxie, Minecraft. Enfin, ils ont eu des projets dans tous les sens. Voilà. Le souci, c'est que d'une, la qualité des jeux s'en est ressentie. Au bout d'un moment, bah, la recette était toujours la même. Techniquement, ils étaient sur un moteur qui avait 15 ans et ça se ressentait. Et en fait, il y a eu des soucis de gestion en interne. Il y a eu le CEO d'origine qui s'est fait licencier, je crois, qui était remplacé par quelqu'un de chez Zynga. Déjà en décembre dernier, ça allait pas fort. En novembre dernier, ils ont annoncé un licenciement de 90 personnes, ce qui, je sais plus, c'est peut-être 25% des effectifs. Voilà. Et là, vendredi, on a appris, et les employés Telltale quasiment en même temps que nous, a priori, l'immense majorité du studio était vidé. Enfin, il restait plus que, ils avaient gardé 25 employés sur les 250 qui restaient, donc c'est quand même énorme. Et ce petit noyau de 25, a priori, serait là juste pour honorer les obligations, certaines obligations, dont a priori une sorte de série interactive avec Netflix sur lesquelles ils travaillaient depuis quelques temps. Et qu'après ça, ce serait fini. Voilà. Donc c'est quand même un gros séisme, parce que même si on savait que Telltale n'était pas en grande forme, ils venaient de lancer la dernière saison de The Walking Dead, qui en plus avait l'air très bien. Il y a le deuxième épisode qui sort demain, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'a priori, cette saison ne sera même pas terminée. C'est-à-dire que la conclusion de The Walking Dead, qui est quand même le jeu, la grande œuvre de Telltale, n'aura peut-être potentiellement pas de fin. Donc c'est extrêmement frustrant. Après, bon, c'est moins frustrant que les pauvres développeurs qui se retrouvent, créateurs qui se retrouvent sur le carreau. Et en plus, on a appris. Alors, il y a pas mal de témoignages sur Twitter de gens de chez Telltale qui se sont un peu exprimés en disant que, enfin, a priori, ça a été fait de manière très très abrupte et un peu sale. On leur a annoncé le matin que la boîte fermait, qu'il fallait qu'ils fassent leur carton sans la moindre forme d'indemnité, etc. Après, c'était très américain, j'en sais rien, tu vois.
Ouais, mais, disons que abrupte et sale, oui et non. Ça a été abrupte, ça c'est sûr, parce que c'était le matin et genre, ça y est, maintenant, au revoir. Mais par contre, c'était pas du tout, vous sortez maintenant et vous passez pas par votre bureau. Il n'y a pas eu les vigiles qui sont venus les escorter.
En même temps, quand
tu sors 250 personnes, c'est difficile. Mais c'est juste que, moi, j'ai l'impression que tout le monde est triste dans cette histoire. Évidemment, c'est aux États-Unis, donc il n'y a pas les protections sociales dont nous y sommes ici. Et donc, c'est forcément hyper dur pour ces gens-là, comme c'est le cas à chaque fois qu'il y a une société qui ferme aux États-Unis. Mais j'ai l'impression que c'est juste tout le monde est triste dans cette histoire que ça se passe comme ça.
Ah oui, c'est clair.
Et c'est un exemple dramatique de mauvaise gestion d'un studio et d'un succès qui avaient, enfin, ils avaient tout pour réussir.
Ils avaient l'or dans les mains. Ils avaient des scénaristes talentueux. Enfin, je veux dire, c'est des jeux. Enfin, tout le jeu n'était pas bon, mais The Walking Dead, la première saison, ça a vraiment marqué. Ça a marqué le jeu vidéo façon, oui. quoi. Mmh. Et voilà. Et c'est super dommage. Alors, moi, je m'inquiète pas sur le fait que, alors déjà, je sais qu'il y a notamment Santa Monica Studio qui a priori est plus ou moins voisin de Telltale, qui a annoncé publiquement sur Twitter qu'ils étaient prêts à embaucher un maximum de gens de Telltale parce qu'ils cherchaient du monde, etc.
Il y a plein de gens qui ont proposé.
J'ose espérer, voilà, il y a sans doute des développeurs qui vont créer un studio derrière parce pour des anciens de chez Telltale. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Le jeu vidéo, malheureusement aussi, il y a beaucoup de studios qui ferment, beaucoup de gens qui sont sur le carreau, mais derrière, il y a, c'est aussi des opportunités pour créer de nouvelles choses. J'espère que ce sera le cas pour Telltale.
C'est un nom qui disparaît, quoi. Là où c'est vraiment triste, parce que des studios qui ferment, il y en a tout le temps. Tu sors un jeu qui marche et puis un jeu qui marche moins, et c'est dur pour tous les studios. Enfin, comme dans toutes les entre guillemets industries artistiques, c'est compliqué. T'es pas sûr de trouver le succès à chaque fois. Mais là, c'était vraiment, ils avaient une formule relativement simple à implémenter. Les jeux étaient bons pour une énorme partie, mais ils en ont tellement trop fait, ils sont tellement restés accrochés à leur moteur, c'était une erreur, mais tellement ridicule. Et tout le monde le voyait, tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'ils foutent chez Telltale ? Pourquoi ils n'ont pas encore fait ci ou ça ? Et souvent, on se dit, ah ouais, c'est facile de voir les choses de l'extérieur. Mais enfin là, vraiment, c'était, je crois, un exemple où tout le monde le voyait, sauf, j'ai même pas envie de dire les gens de chez Telltale, sauf le mec qui était à la tête de Telltale et qui a pris que des mauvaises décisions, quoi. Donc...
Ouais, c'est clair.
Et il y a des histoires, évidemment, de crunch terrible parce qu'ils en faisaient tellement qu'ils ne pouvaient pas. Il y a des... Enfin, c'est une histoire triste de mauvaise gestion d'un...
Donc là, normalement, le dernier jeu tel, a priori... Alors, pour le moment, ils n'ont pas communiqué sur le fait que... là, c'est beaucoup de rumeurs que la fin de Walking Dead ne sortira pas. Mais donc, l'épisode 2 sort demain. Et c'est peut-être potentiellement le dernier jeu tel, en fait. C'est ça qui est assez bizarre, mais voilà. Et en tout cas, les devs qui bossaient sur Twitter, enfin, qu'est-ce que je raconte, qui sont exprimés sur Twitter, ils ont tous l'air de dire, oui, non, c'est fini, il n'y aura pas d'épisode 3 et 4, quoi. C'est pas possible, quoi. Bon, voilà. C'est triste, c'est surprenant sans l'être trop, mais surtout, enfin, c'était tellement soudain en fait que voilà, surtout qu'ils avaient annoncé que The Walking Dead serait le dernier jeu avec ce moteur-là, que les prochains jeux il y aura un nouveau moteur, il y a des projets Netflix a priori qui vont peut-être sortir, donc c'est vrai qu'il y a ça aussi, mais ça reste très flou. La seule communication officielle de Telltale, c'est la confirmation que il reste 25 personnes pour finir ce qu'ils ont à finir et qu'après c'est terminé, mais on ne sait pas exactement quoi. Mais bon, à 25, ils vont pas aller loin, malheureusement.
Oh, tu sais, Dead Cells, ils l'ont fait à 10. Hein.
Oui, bah, d'accord. Mais... oui, alors, okay. Alors, peut-être que Motion Twin va embaucher plein de gens chez Telltale pour leur prochain jeu, je ne sais pas. Mais bon, voilà.
Non, mais peut-être qu'ils vont se mettre à faire des trucs. Bon, oui, non. Enfin, ils ont dit.
Non,
c'est fini.
Pour moi, c'est mort. Enfin, pour moi, c'est mort. Ils finissent là. À mon avis, voilà, ils terminent certains trucs et. Ouais. Voilà, quoi.
Un peu triste. Rockstar a annoncé, ce qui n'est une surprise pour personne, et donc ils l'ont annoncé vraiment de la manière la plus entre parenthèses, comme toujours, hein, un truc annoncé un vendredi comme la fin du studio Telltale, c'est que ils veulent avoir aussi peu de presse que possible, et clairement
ouais,
là c'est un bon, tu donc m'étonnes. C'était vendredi. Red Dead Online arrivera en novembre en bêta publique, donc un petit peu après la sortie du jeu lui-même. Alors c'est pas une surprise pour personne, l'arrivée de Red Dead, d'une version en ligne de Red Dead, vu le succès insolent de GTA Online. Donc ils l'ont juste annoncé, tout le monde savait que ça allait arriver, mais je serais curieux de voir ce que ça donne. Est-ce que ça sera effectivement juste un GTA Online mais dans le Far West, ou est-ce qu'il y aura des trucs un petit peu différents?
Ils ont dit, enfin, on a peu d'infos, mais ils ont quand même communiqué sur le fait qu'effectivement ce serait le modèle GTA Online adapté à Red Dead, ce qui est pas mauvaise chose en soi, parce que aujourd'hui GTA Online a priori déjà tellement un truc énorme, mais j'ose espérer qu'il y aura après ce qu'ils ont dit aussi, c'est qu'il y aura quand même un focus pas mal fait sur la narration, il y aura des missions scénarisées en multijoueur, etc. Donc ça va faire un carton, je peux pas imaginer autre chose qu'un immense carton, en tout cas pour Red Dead évidemment, et derrière le online, voilà quoi.
D'ailleurs, la communication de Rockstar en général, mais en particulier sur Red Dead, c'est marrant parce qu'ils en disent vraiment le moins possible. Et c'est intéressant, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais c'est bizarre, ils n'en parlent pas beaucoup, machin. » Et le truc, c'est que ce jeu est tellement... c'est même pas qu'il est tellement attendu, oui, dans nos cercles, tout le monde l'attend, machin, mais tous ceux qui en parlent pour dire « je vais l'acheter, en gros, et ça va être un carton ». Et du coup, la seule chose qu'ils puissent faire en communiquant plus dessus, c'est... Alors, il y a deux issues possibles. Soit les gens se disent « Ah, bah oui, c'est cool, je vais l'acheter, donc rien ne change. » Soit « Oh, bah, ouais, en fait, c'est pas ça me plaît pas trop, donc je vais peut-être attendre un peu. » Donc, la raison pour laquelle ils en parlent si peu, c'est que le seul effet que ça pourrait avoir, puisque tout le monde veut déjà l'acheter, c'est que des gens, finalement, ne l'achètent plus. Donc, ça ne peut avoir qu'un effet négatif. Donc, je suis convaincu qu'on va avoir une offensive communication au moment de la sortie, peut-être une semaine avant, avec communication qui ne te dit rien sur le jeu. On va peut-être avoir encore une vidéo de gameplay qui explique tel ou tel truc, mais c'est tout. Et puis après, des grosses présentations hyper cinématiques à la manière de ce que fait, Rockstar, mais aussi de ce que fait Blizzard, etc., avec des trucs in-game, mais hyper bien foutus, mais qui te montrent très très peu de gameplay. Et donc ça va être l'offensive com. Mais au-delà de ça, je suis convaincu qu'il y aura très 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 peu de choses, parce que ils ont pas besoin, quoi.
Pardon, ils ont déjà un public conquis, donc oui, c'est... Fin...
C'est même plus qu'un public conquis. C'est que quand t'as ton public conquis et des gens encore à convaincre, tu peux faire de la pub. Mais là, j'ai l'impression que qui que ce soit qui pourrait penser peut-être à l'acheter est déjà quasiment sûr de l'acheter.
Oui, ah bah, c'est ça.
Après, ils vont aller chercher peut-être plus loin avec une grosse campagne de com massue, comme pour les AAA, mais ça sera au moment de la sortie, quoi.
Exactement, pas avant. Et là, il y a juste eu des previews de la presse, là. Il y a la presse spécialisée a eu l'occasion d'y jouer. Bon, évidemment, globalement, tout le monde est hyper, hyper enthousiaste. Et moi, la dernière fois que c'est peut-être GTA 5 d'ailleurs, le dernier cas que j'ai eu, c'est qu'autour de moi, que ce soit au travail, que ce soit parmi mes amis joueurs ou pas joueurs, c'est voilà, Red Dead, ça sort quand? Ok, je l'achète. Enfin, ils se posent même pas la question, en fait. Voilà, c'est le jeu que je vais acheter fin octobre. Et c'est tout, quoi. Il y a même pas de discussion à avoir. Je vais l'acheter. Ouais. Voilà. Et ça, j'ai pas vu ça depuis très longtemps, quoi.
C'est vrai. Quelques news rapides. Assassin's Creed Odyssey sortira sur Switch. Sur Switch.
Hein? Comment ça?
Comment? mais au Japon et en streaming. En streaming. C'est le deuxième jeu après Resident Evil, le remake, qui va sortir en streaming sur Switch, uniquement au Japon. Modèle économique particulier, mais c'est intéressant de voir Ubisoft, en fait, s'intéresser à cette technologie, surtout après les commentaires de Yves Guillemot il y a quelques mois, qui disait, la prochaine génération, il y aura encore des jeux physiques, mais après, ça sera que streaming. Donc, ils commencent à s'y intéresser aussi. Je serais pas surpris que ça soit un test parce que Ubisoft s'intéresse à cette technologie aussi, qui, rappelons-le, permet pour des éditeurs de complètement bypasser les constructeurs et de s'adresser directement à leurs clients à travers n'importe quelle box, finalement. Il suffit d'avoir une box avec une app Ubisoft Service et tu peux, entre guillemets, vendre tes jeux ou tes abonnements aux clients sans être absolument tenu par Sony, Microsoft ou qui que ce soit d'autre de te permettre, entre guillemets, et de mettre leurs conditions sur leur accès à leurs clients, quoi.
Ouais, moi je suis converti là-dessus. Enfin, je suis extrêmement convaincu que le streaming va devenir extrêmement important dans les années à venir. Une fois qu'on aura de la 5G par exemple, qui sera un peu développée. Bon, on n'y est pas tout de suite, mais c'est une question d'années.
On parle un horizon à 5-10 ans, quoi. Mais
ouais, voilà, c'est ça. Et il y a aucune raison que technologiquement, on va y arriver, quoi. Aujourd'hui, le streaming fonctionne dans des conditions spécifiques. Il faut quand même avoir de la fibre, etc. Donc c'est pas donné à tout le monde. Mais on va vers ça. On va vers ça. C'est évident, quoi.
Moi, je pense que le physique existera toujours.
Oui, j'ai pas dit.
Ou en tout cas pendant longtemps. Mais oui, c'est sûr que.
Il y aura toujours deux versions. Je pense à l'avenir, il y aura deux versions. Il y aura ta version physique, tu auras ta version streaming. Et puis voilà, quoi.
Souvenez-vous d'une époque où quand Steam est sorti, on se disait mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des jeux, on est connecté, machin, mais enfin, qui achète ces jeux en physique aujourd'hui sur PC, quoi?
Et je pense que sur console, ça va finir par être le cas de plus en plus, quoi. Enfin,
possible.
C'est déjà le cas.
C'est pas exactement la même chose.
C'est pas la même chose, d'accord, mais.
C'était quand The Orange Box avec le lancement de Steam? C'était 2004.
Non, attends. Alors attention, The Orange Box, c'était après.
C'était 2007
attends, non,
oui. Non.
Attends, je sais plus. Non, c'était 2004.
Alors,
comme
2007,
ça, ouais.
2007, c'est The Orange Box.
Non, voilà, mais... voilà, c'est ça. Et Half-Life mais... 2, c'était 2003, un truc comme ça, ou 2004.
Donc, oui, Half-Life, Half-Life 2, il n'était pas que sur Steam.
Si, si. Ah, si, si. Half-Life ah, 2, oui. c'était ça, la nouveauté. C'est que pour jouer à Half-Life 2, il fallait avoir Steam. Et c'était, c'est Half-Life, Steam a été lancé en même temps qu'Half-Life 2. C'était en 2003, je crois. Moi,
alors, c'est 2003,
j'étais même pas encore journaliste, donc oui, ouais. C'est ça. Ça devait être ça, oui. Ça date.
C'était 2003, donc lancement de Steam il y a 15 ans, et surtout lancement de The Orange Box, à peu de choses près, il y a 10 ans. Rendez-vous compte, et The Orange Box, je pense, c'est à ce moment que les gens se sont vraiment intéressés à Steam. C'était il y a à peine 10 ans, et aujourd'hui, il y a simplement plus de jeux qui sont vendus en physique sur PC. Enfin, oui, oui bien sûr, vous pouvez en trouver.
C'est ridicule du marché.
Et donc, en 10 ans seulement, donc quand vous dites « Ah, mais le streaming, j'avais de la vie, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Si on parle à un horizon 10 ans, ça peut changer les choses. Quoi.
Sure.
Electronic Arts lance la première salve contre la loi belge qui veut qu'on ne puisse pas vendre de lootbox dans le pays. Ils ne suppriment pas les lootbox de FIFA Ultimate Team. Évidemment, ça représente une telle manne pour eux que c'est compliqué de s'en départir. Ils ne la suppriment pas. Leur argument, c'est que ça ne représente pas un jeu de hasard parce que les joueurs savent le pourcentage de chances qu'ils ont d'avoir tel ou tel objet dans les paquets de cartes qu'ils vont acheter. Alors, je leur laisse la paternité de cet argument. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ils vont certainement, enfin, ils vont de fait se lancer dans un combat légal, et ça va sans doute déterminer la légalité, la validité de cette décision de la Belgique. Et je pense que ça va pas s'arrêter à la Belgique parce que EA va faire appel de la décision si elle n'est pas en leur faveur. Et ça, c'est le genre de truc qui peut remonter jusqu'à la Cour suprême européenne, quoi. Donc c'est intéressant parce que c'est le début de cette question légale de l'interdiction ou l'autorisation des lootbox. Et c'est EA qui s'y colle. Je pense que l'ensemble de l'industrie se dit bon, c'est eux qui vont le faire.
Bah, c'est de eux qui est venu le scandale. Enfin, même s'il y avait des lootbox avant,
oui, avec Battlefront,
c'est de eux
sûr.
Qui est parti avec Battlefront 2. Donc voilà, c'est bon.
Tout à fait. Donc bon, on verra comment ça se passe. On suivra ça bien sûr dans les années à venir. Ça va prendre super super longtemps, je pense. Donc ça va être intéressant. Et bien sûr, s'ils y vont, c'est qu'ils ont bien étudié la chose avec leurs avocats et que leurs avocats leur ont dit ouais, nous on pense que c'est gérable, c'est possible à gagner quoi.
Allez-y quoi.
Donc ils ont, c'est pas un truc où ils se disent ils y vont au doigt mouillé genre ça fait quand même beaucoup d'argent FIFA Ultimate Team. Et si on faisait pas ce qu'ils nous demandent de faire ? Non, ils ont étudié la chose très très sérieusement, je pense.
Bien sûr.
Donc
Eh bien.
Voilà, pour un programme bien chargé, un épisode bien chargé. Merci, JK, d'avoir été avec nous.
Bah écoute, ça fait plaisir hein, de reparler, de revenir parler jeux vidéo avec toi, mine de rien.
Mais c'est toujours un bon moment. Est-ce que, tu nous parlais du dernier ZQSD qui devrait être en ligne bientôt. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui veulent plus de JK dans leur vie ?
Bah alors là, si vous voulez du plus de JK, vous allez avoir 4h30 de ZQSD bientôt, parce que l'émission dure peut-être un peu moins, mais une fois que le montage sera fait, on sera au-delà des 4h. Donc là, c'est une des émissions les plus longues qu'on ait faites. Mais cela dit, non, c'était hyper intéressant, parce que Boulap est venu accompagné de l'attaché de presse de Playdus qui s'appelle Ama, qui sont deux personnes. Enfin, Boulap, évidemment, peut-être que les gens connaissent Mathieu Hurel, un gars en or, et voilà, et son acolyte, c'était hyper intéressant, parce que on a pu discuter notamment au-delà de ce que fait Playdus, de la façon dont un éditeur travaille avec des développeurs pour repérer des projets, comment ils couvrent les salons côté éditeur, etc. Enfin, c'était super cool. On parle aussi en critique, on parle de The Messenger, on parle d'un jeu qui s'appelle Graveyard Keeper, qui est assez rigolo, rigolo avec des guillemets, puisque c'est un Stardew Valley dans le monde des croque-morts. Donc c'est assez original, voilà. Bref, donc voilà, donc ZQSD, donc c'est un podcast mensuel de jeux vidéo qui dure beaucoup trop longtemps, et le prochain numéro donc, va être en ligne, je pense, bientôt. On a fait des numéros aussi à la Gamescom. Et ça commence à dater un petit peu, mais si vous voulez avoir nos impressions sur la Gamescom, c'est en ligne. Sinon, sur lesnumériques.com, hein, pour des sujets high-tech, informatiques, cinématiques, jeux vidéo, un peu de tout. On a aussi un podcast, hein, les petites concurrences. On se fait un peu de concurrence, Patrick, puisqu'on a lancé un podcast. On a sorti le numéro 4 il y a la semaine dernière, où on parle évidemment des annonces autour d'Apple. On revient sur l'IFA
podcast
et tout ça.
Podcast Tech, tu veux dire. Le podcast Tech.
Ouais, podcast Les Numériques, là, par exemple, c'est un projet différent. Donc, le numéro 4 est en ligne depuis une semaine et on est plutôt content de cette... on est un peu plus content à chaque numéro, parce qu'on se lance, c'est que le début, mais à chaque numéro, on trouve qu'on s'améliore et les retours sont plutôt bons, donc on est content, quoi.
Alors, si tu as besoin de conseils, petit, tu viens me voir.
Bah oui, t'inquiète, t'es notre parrain. Tu peux venir dans l'émission un jour, hein, y a pas de souci. Hein.
Ah bah avec plaisir, moi je suis en Finlande, mais je sais pas si ah, oui, c'est vrai physique. Que, oui. Un jour, physique, un passage ouais. À Paris, on fera ça.
Voilà, c'est ça.
Très bien, très bien. Merci à toi. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et Facebook et sur Instagram également. Si vous parlez anglais, alors d'abord, si vous parlez français et que vous aimez Dead Cells, il faut aller écouter l'épisode l'épisode de ZQSD où les Joyeux Lurons ont reçu les développeurs de Dead Cells.
Motion Twin. C'était il y a un moment déjà, parce que le jeu venait juste de se lancer en Early Access, je crois, à l'époque.
C'est ça. Donc ça fait un an et demi. Donc vous pouvez avoir un écho de leurs expériences à ce moment-là. Et si vous parlez anglais, vous pouvez ensuite aller écouter mon podcast anglophone de jeux vidéo qui s'appelle Pixels. Et dans le numéro 91, j'ai parlé avec justement deux développeurs de Motion Twin sur leur expérience avec Dead Cells après donc le lancement, avec le succès qu'ils ont connu, comment ils ont fait pour avoir un bon lancement avec un early access, comment ils ont suivi le développement et comment fonctionne leur société. On a parlé de ça aussi, leur société qui a une structure, pour ceux qui ne le savent pas, vraiment particulière. C'est une sorte de coop où ils sont tous membres égaux à part entière, où ils sont tous payés la même somme et ils partagent tous les profits. Et comment ça fonctionne ? Parce que ce n'est pas juste une question financière, c'est aussi pour les décisions. Tout le monde a voix au chapitre à part égale sur toutes les décisions. Et ils nous ont expliqué comment ça fonctionne, comment ça ne fonctionne pas parfois, et comment ils gèrent quand ça fonctionne pas. C'est hyper intéressant. Et bien sûr, on a parlé du jeu. Donc, c'est le podcast Pixels et c'est l'épisode numéro 91. Si vous parlez anglais, je vous recommande vraiment d'aller écouter. La raison pour laquelle je l'ai fait en anglais, c'est que comme ils sont français, ils ont beaucoup parlé en français à des francophones. Et les anglophones n'avaient pas vraiment eu l'occasion de les entendre parler, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa pour cette raison. Mais voilà, si vous parlez anglais, ça pourrait peut-être vous apporter quelque chose. Et si vous n'avez pas encore joué à Dead Cells, bon sang, mais qu'attendez-vous ? La rentrée est occupée.
Ah ça, c'est vrai. Qu'attendez-vous ?
Oui.
C'était mon GOTY, mon jeu de l'année 2017 en early, et je sais pas si ce sera celui de 2018, mais il va être dans le top à mon avis.
Ouais, bah il fait partie de mon top également. Ouais,
ouais.
C'est un très très bon jeu et ça conclut cet épisode du rendez-vous jeu. Si vous avez des choses à dire sur ce qu'on vient de vous raconter, bah n'hésitez pas à venir sur frenchspin.fr pour commenter dans l'article sur l'émission. Si vous aimez les news tech, vous pouvez retrouver également le rendez-vous tech où on couvre toutes les semaines l'actualité tech. Alors la semaine dernière, on a parlé des annonces Apple. Cette semaine, on va certainement parler des annonces Amazon. Il y a eu une tonne d'annonces un petit peu sur et on fait un épisode toutes les semaines. Et sinon, on sera de retour dans le rendez-vous jeu dans une semaine pour un nouvel épisode. On vous fait de grosses grosses bises et on vous dit à très très bientôt. Ciao.
Salut.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.